Vous êtes sur RTL.
Temps pour bien commencer la journée justement. Bonjour Yves.
Moi j'ai eu fresco en venant ce matin.
Mais pareil.
Alors très bien, on est sur la même ligne, ça tombe bien. Merci infiniment Julien, je salue toute l'équipe des petits matins et bonjour à tous. C'est la rentrée, 6,5 millions de petits français retrouvent aujourd'hui leur école maternelle ou primaire. Ils auront droit à un nouveau protocole, explications et détails de notre brigade dès 7h15 avec Agathe Landais. Et puis nous donnerons la parole au directeur de l'école élémentaire Samira Bellil de Saint-Denis. Dans la foulée, l'invité de notre matinale à 7h40, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Nos entreprises restent dans l'attente de la parole présidentielle. Doit-on maintenir les aides et jusqu'à quand? La question lui sera posée par Alba Ventura. Nous vous décrirons du coup l'avancée du plan de relance européen et ses 750 milliards que tous les pays européens attendent. À 8h10, c'est une brigade signée Bénédicte Tassard. Et puis nous allons revivre dans toutes nos éditions la nuit des Oscars qui voit le français Florian Zeller récompensé par deux fois. Nous sommes le lundi 26 avril 2021. Nous vous souhaitons une excellente journée. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Un retour en classe assumé, la phase 1 du déconfinement est donc enclenchée.
Réouverture des écoles maternelles et élémentaires ce matin, accompagnée d'un protocole toujours aussi strict. À Rambouillet, le tueur de la policière s'était récemment converti à l'islam radical. Un hommage sera rendu cet après-midi à cette mère de deux enfants. Dans ce journal également, l'Inde au bord du chaos, incapable de faire face à l'épidémie. La colère du maire de Chamonix contre les avions de tourisme, trop nombreux au sommet du Mont Blanc, et puis Lille qui conforte sa place en tête de la Ligue 1.
La politique, Olivier Bosse.
Et d'une semaine sur l'autre, Emmanuel Macron toujours piégé par les questions de sécurité et maintenant par les questions d'immigration.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Un cas confirmé, une classe fermée. Le protocole est strict, il ne change pas et c'est à cette condition que le gouvernement choisit de maintenir son calendrier. Malgré les mises en garde de certains scientifiques, les protestations de plusieurs syndicats d'enseignants, les écoles maternelles et primaires accueilleront de nouveau ce matin les élèves. Après trois semaines de fermeture imposée, cette famille de Strasbourg n'est pas mécontente de reprendre les petites habitudes. Reportage, Yannick Collin.
Dernière vérification du stock de masques pour Simon, 8 ans. C'est un tiroir plein dans la commode de l'entrée.
Il y en a combien, là, à peu près?
Je pense une centaine. Je le mets tout le temps à part à la cantine. Mais des fois, on est obligé d'enlever un peu le masque pour un peu respirer à la classe. Je fais moins attention qu'avec ma mamie, parce que les vieilles personnes sont des personnes fragiles du Covid, non? Mais à l'école, là, que je fais quand même attention, parce que je n'ai pas envie d'attraper le Covid.
Louis, son grand frère en CM2, s'inquiète un peu de revoir les mauvaises habitudes d'une partie de ses copains.
Dans ma classe, c'est presque personne qui fait attention. Et dans la masque, quand ils parlent, ils enlèvent complètement le masque. Et du coup, ça, c'est un peu embêtant.
Hugo, le papa, est lui plutôt content que l'école reprenne. Mais pour limiter les risques, la famille s'est organisée différemment pour l'heure du déjeuner.
On a fait le choix, effectivement, de ne pas les remettre à la cantine pour cette rentrée-là. C'est vrai qu'on travaille à la maison, en télétravail. Un des garçons a été qu'à contact et c'est à la cantine qu'il a été qu'à contact. Donc c'est vrai qu'on est un peu plus vigilant sur ce moment-là de la journée à l'école.
Et le soulagement tout de même pour cette famille strasbourgeoise, c'est que depuis ses vacances, les grands-parents sont tous vaccinés.
Yannick Holland, une rentrée à laquelle participera Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra dans une école de Melun en Seine-et-Marne pour échanger avec les élèves et les enseignants.
7h03, les touristes venant des États-Unis seront eux autorisés à visiter l'Europe dans les prochains mois.
Le continent s'apprête à leur ouvrir les frontières à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid. C'est ce qu'a déclaré hier la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui réfléchit toujours à la mise en place d'un passeport sanitaire. Si les Américains seront bientôt les bienvenus, les Indiens, eux, doivent toujours se plier à une quarantaine de 10 jours alors que leur pays fait face à une situation dramatique. 700 000 cas diagnostiqués en deux jours et des habitants désormais soignés dans la rue. Bénédicte Tassard.
Ah oui, et l'aide internationale s'organise après l'appel du Premier ministre indien face à ce qu'il surnomme une tempête. Bruxelles enclenche le mécanisme européen de protection civile qui permet aux 27 pays de l'Union de coordonner leurs moyens et de les déployer en Inde. En France, on précise que des respirateurs vont être envoyés dès cette semaine par avion. Londres également prévoit 9 cargaisons aériennes avec près de 500 concentrateurs d'oxygène. 350 000 contaminations hier en Inde. Alors, sur une population de près de 1,5 milliard, on pourrait relativiser. Mais ce qui inquiète, c'est d'abord la hausse exponentielle. Deux fois plus de cas en une semaine. semaine avec ce nouveau variant. Et puis surtout, la vétusté du système de santé indien. Manque de lits, d'oxygène, de médicaments. Les malades installés sur des brancards devant les hôpitaux encombrés meurent faute de respirateurs. Et des crématoriums sont organisés sur les parkings de New Delhi.
Merci Bénédicte Tassard.
C'est hommage à présent que s'apprête à rendre la ville de Rambouillet à Stéphanie, la policière assassinée vendredi.
Victime d'un Tunisien de 36 ans qui s'était récemment converti aux thèses les plus radicales de l'islam. Jamel Gorchen abattu alors qu'il poignardait sa victime. On en sait un peu plus ce matin sur son profil et sur son processus de radicalisation, même si quelques zones d'ombre persistent encore. Anne Le Hénaff.
À ce stade, les enquêteurs n'ont pas retrouvé de lettres de revendication ni de serment d'allégeance à un groupe terroriste. Mais la radicalisation de ce Tunisien de 36 ans ne fait guère de doute pour le procureur de la République antiterroriste. Il a écouté des chants religieux prenant le djihad, la guerre sainte, juste avant d'assassiner sa victime. Son compte Facebook avait évolué depuis l'automne. Le terroriste partageait de plus en plus de textes légitimant la violence contre ceux qui auraient insulté le prophète de l'islam. Ses proches, son père notamment, parle d'un changement de comportement depuis quelques mois. Mais que s'est-il passé dans la vie de ce chauffeur-livreur qui vivait en France depuis plus de 10 ans? Avait-il des complices? A-t-il été guidé, endoctriné, poussé à l'acte? Par qui et où? En France ou dans son pays natal, la Tunisie, où il est parti en vacances 15 jours en février? Autant de questions sans réponse pour le moment. Les enquêteurs poursuivent leur minutieux travail de traque a posteriori. Ils ont demandé ce week-end à la Tunisie de coopérer.
Et dans ce dossier, trois personnes sont encore en garde à vue ce matin, le père et les deux cousins du terroriste. La France ne jugera jamais les fous. Sur ce point, Éric Dupond-Moretti se veut clair. Pour autant, le garde des Sceaux propose de faire évoluer la loi autour de l'irresponsabilité pénale. Un texte sera présenté le mois prochain. Une décision qui fait suite à l'absence de procès après la mort de Sarah Halimi, cette femme juive de 65 ans dont le meurtrier a été considéré comme irresponsable. Hier, 25 000 personnes se sont rassemblées à Paris et dans plusieurs villes de France pour exprimer leur colère.
Le Mont Blanc menacé par les avions de tourisme. On y revient dans un tout petit instant sur RTL. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin.
Il est 7h08, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est une forme de tourisme dont les maires du massif du Mont-Blanc ne veulent plus.
Le survol de la montagne en avion, une activité prisée, notamment lorsque reviennent les beaux jours, mais très mal encadrée. Résultat, plusieurs petites compagnies ont développé cette activité particulièrement rentable et c'est l'embouteillage au sommet du Mont-Blanc qui prend parfois des allures d'autoroute aérienne. Entendez-le dans ce reportage de Serge Peillot.
Certains jours de week-end, dans le massif du Mont-Blanc, la montagne, c'est ça. Le maire de Chamonix, Éric Fournier, dénonce ces vols d'avions de tourisme dont certains se posent sur les glaciers.
Un balai absolument incessant, plusieurs dizaines, probablement de l'ordre d'une centaine au moins de vols en continu. 5 avions posés sur le même glacier en simultané. Vraiment, c'est des pratiques qui ne sont pas tolérables. Et c'est des nuisances qui sont importantes pour tous les pratiquants de la montagne, mais également pour la faune qui est sur le massif.
Les maires de Saint-Gervais et Chamonix demandent donc à l'État de limiter ce trafic aérien. Emmanuel Réti dirige lui la société Avialp qui organise des survols du massif pour les touristes.
Le massif du Mont-Blanc appartient à tout le monde, à vrai dire. Tout le monde a le droit de découvrir nos belles montagnes. Et ça, c'est clairement l'avantage de l'avion. Tous les jours, on emmène des enfants, des personnes âgées, des gens qui ne sont pas sportifs, des personnes handicapées également.
Ce type de société, mais aussi les pilotes amateurs de vol en montagne, redoutent donc des limitations, voire des interdictions de survol du massif.
Ouais, ça vous gagne un peu moins à la montagne avec ce bruit d'avion. Reportage de Serge Peillot.
Les Oscars, la nuit dernière depuis Los Angeles, deux grands gagnants cette année.
D'abord Nomadland, le film de Chloé Zhao, l'histoire de cette Américaine qui décide de prendre la route après avoir tout perdu pendant la crise économique. Meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Frances McDormand. Et puis Jolie Moisson également pour The Father de Florian Zeller. L'auteur français remporte l'Oscar du meilleur scénario adapté et Anthony Hopkins celui du meilleur acteur. Stéphane Boutsock l'a joint il y a quelques minutes. Florian Zeller a suivi toute la cérémonie depuis Paris.
J'ai pas complètement réalisé, mais je suis toujours dans cet état de grande joie. Et de joie d'autant plus grande qu'en fait, on a commencé la cérémonie par l'Oscar du meilleur scénario et on l'a terminé par l'Oscar du meilleur acteur avec Anthony Hopkins. Et pour moi, c'est une joie vraiment particulière de le partager, ce moment avec Anthony, dans la mesure où j'ai écrit ce film pour lui et voilà, le désir de faire ce film est pour moi indissociable du désir de le faire avec lui.
Est-ce que vous avez déjà passé un petit coup de fil à Anthony Hopkins ?
Oui, on s'est parlé il y a à peine 10 minutes. Il venait juste de l'apprendre parce qu'il n'était pas lui aux Oscars. Et de sentir son émotion qui était immense, voilà, rien qu'en vous la transmettant, je suis traversé moi-même par une grande émotion.
Florian Zeller, joint il y a quelques minutes par Stéphane Boutsock, dont le film sortira en France, sachez-le, dès que les cinémas rouvriront, on espère fin mai.
Et enfin, sachez que nous vous donnerons tout le palmarès de cette soirée dans Laissez-vous tenter à partir de 9h avec Stéphane Boutsock. À 4 journées de la fin du championnat de football, Lille, plus que jamais leader de la Ligue 1.
Et même désormais favori dans la course au titre, après sa victoire hier 3-2 face à Lyon. Raphaël Vantard, vous avez suivi ce match, la détermination des Lillois, leur capacité à rebondir, ils sont ce matin clairement en route vers le titre.
Plus que le résultat, c'est le scénario du match qui place Lille en désormais favori pour remporter le championnat de France. Mené 2-0 à Lyon, chez un concurrent direct pour le titre, les Dogs trouvent la force de renverser le match et de l'emporter sur le fil. Au coup de sifflet final, l'entraîneur lillois Christophe Galtier s'offre une roulade arrière sur la pelouse. À 4 journées de la fin, il assume pour la première fois l'objectif désormais clair de Lille, remporter la Ligue 1.
Maintenant, c'est un objectif, bien évidemment. On ne peut pas se cacher. Là, on est à 4 journées de la fin et on est premier, donc on va devoir être performant, s'arracher sur tous les ballons, sur tous les matchs qui vont arriver pour arracher des victoires et tenir jusqu'au bout. J'espère que mes joueurs rêvent autant que ce que je rêve.
Le rêve lillois tranche évidemment avec la totale désillusion lyonnaise. Claude Fichaud, l'entraîneur adjoint de l'OL, a même du mal à trouver les mots pour remobiliser les troupes.
Le résultat, il est terrible. On est arrivé dans le vestiaire avec les joueurs abattus, bien évidemment. On ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui tout espoir de podium n'est plus atteignable. Dans la course, on peut y revenir.
Pour espérer encore une place en Ligue des Champions, Lyon devra l'emporter la semaine prochaine à Monaco face à une équipe qui, avec Lille et le PSG, lutte désormais dans une course à trois pour le titre de champion de France.
Raphaël Vantard, les tirages au sort des demi-finales de la Coupe de France. Les matchs auront lieu le 12 mai prochain. Montpellier recevra le Paris Saint-Germain et les amateurs de Rumi Valière l'AS Monaco.
On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly, Dominique.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 8, l'AS, le 15, le 2, le 9, le 12 et le 3, la dernière minute, c'est le 15, Sierce Parcalo.
Le journal de 7h nous était présenté par Dominique Tenza.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h13, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
D'une semaine sur l'autre, Emmanuel Macron toujours piégé par les questions de sécurité, Olivier.
Oui, l'attentat de Rambouillet ramène le chef de l'État à cette question, le régalien, sa grande faiblesse originelle. Et il l'amène sur une autre question, autrement plus épineuse pour sa majorité, celle de l'immigration. Les oppositions, les Républicains ce week-end, par les voix de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, ils sont allés franchement, les faits sont là, l'attentat de Rambouillet, comme celui de Conflans-Sainte-Honorine, comme celui de Nice, ont été commis par des hommes arrivés plus ou moins récemment en France. Tout cela a été évacué par le porte-parole du gouvernement dans le journal Le Parisien ce week-end. Gabriel Attal les qualifie de « vautours ».
Mais pourtant, Emmanuel Macron est loin d'être inactif sur le front de la sécurité.
Non, mais ce qu'il en reste, la perception ne bouge pas. Il y a eu une loi immigration douloureuse pour La République En Marche. Il y a une loi séparatisme, une loi sécurité globale. Il y aura une nouvelle loi antiterrorisme présentée cette semaine. Il y a aussi la promesse de revoir les accords de Schengen avec la présidence européenne. Emmanuel Macron n'avait pas tout cela dans son logiciel d'origine. Avant d'accéder au pouvoir, il disait se refuser aux lois de circonstances et il disait compter plus sur l'émancipation de chacun, sur ses résultats économiques pour répondre à ce qui mine nos sociétés. Tout cela, c'était avant de se coller à la réalité du pouvoir, à une société bien plus crispée, bien plus fragmentée et en attente de bien plus de fermeté qu'il avait pu l'imaginer. Les Républicains, la droite et le Rassemblement National ont bien compris qu'ils avaient là matière à attaquer Emmanuel Macron.
Mais peuvent-ils en tirer un gain politique?
Oui, parce que ces sujets restent un piège pour Emmanuel Macron. S'il n'en fait pas assez, ou s'il apparaît faible, une partie de son électorat sera tentée par une alternative. La sécurité est un sujet qui peut déterminer un vote. Avec toutes les crises que nous traversons, être rassuré sera un élément déterminant de la campagne présidentielle. Mais si Emmanuel Macron en fait trop, il risque de perdre une part de ses électeurs de second tour. C'est ce qu'a identifié Marine Le Pen. Plus Emmanuel Macron tentera de parler à la droite, plus il alimentera l'abstention. L'abstention des électeurs de gauche, c'est l'une des clés pour la présidente du Rassemblement National pour accéder au pouvoir. Emmanuel Macron est donc contraint à un équilibre compliqué pour garder les deux bouts de son électorat. Vous me direz, c'est ce que sait faire à merveille Emmanuel Macron, le fameux « en même temps », ferme et humaniste ou quelque chose comme ça. Ça, résultat. Sauf qu'en ce moment, dans une situation tendue et dans des débats de moins en moins nuancés et sereins, c'est de plus en plus difficilement tenable.
Olivier Bost, que l'on retrouve bien entendu sur le site RTL.fr. Merci Olivier. Nous reviendrons sur les rapports de la police de terrain, notamment avec les jeunes Français de banlieue à 8h20, puisque notre reporter Alice Moreno a passé 48 heures avec la brigade spécialisée de Corbeil-Essonne en région parisienne. D'ici là, je vous rappelle que c'est Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui sera l'invité d'Alba Ventura à 7h40. Et dans un instant, nous allons vous détailler le protocole sanitaire renforcé pour la reprise de l'école ce matin. Agathe Landais de notre brigade RTL nous expliquera les détails. Et puis nous serons avec un directeur d'école de l'île Saint-Denis en région parisienne.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h18, merci d'écouter RTL. Après 3 semaines de fermeture, une partie de nos écoles rouvre ce matin. Les enfants en maternelle et en primaire reviennent en classe avec un protocole sanitaire dit renforcé. On va faire le point sur ces nouvelles règles avec vous, Agathe Landais. Bonjour.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
D'abord, on rappelle que les mesures déjà en place avant la fermeture restent valides.
Exactement, comme avant le confinement, si un cas positif est détecté, la classe ferme instantanément pour environ 2 semaines. Concernant le masque, là non plus ça ne change pas, les enfants doivent le porter dès l'âge de 6 ans. Et puis les règles de distanciation en classe et à la cantine, elles non plus n'ont pas été modifiées.
En fait, le vrai changement de cette rentrée, ce sont les tests ?
Oui, le gouvernement veut dépister au maximum grâce à 2 types de tests. D'abord, les tests salivaires. 400 000 doivent être effectués dès cette semaine dans les écoles primaires. Ils seront ensuite étendus aux collégiens. En plus de ces tests salivaires, le gouvernement déploie en très grand nombre les autotests.
Mais ces autotests, ce sont surtout les lycéens qui vont les utiliser, hein ?
Oui, car aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé ne recommande ces autotests qu'à partir de 15 ans. Pour les lycéens seulement, donc, qui reprennent les cours en présentiel lundi prochain, en demi-jauge, eux devront se tester une fois par semaine, en classe, sous la surveillance d'un adulte. Les autotests iront aussi à tout le personnel des établissements scolaires, les profs, les surveillants, les encadrants, de la maternelle jusqu'au lycée. Ils devront s'autotester chez eux 2 fois par semaine. Et l'objectif, c'est d'arriver à 600 000 autotests réalisés chaque semaine.
Alors le gouvernement affirme vouloir mettre le paquet sur le dépistage, c'est bien la preuve, Agathe, que le virus circule partout, y compris dans nos écoles.
Oui, on sait désormais que l'école est bel et bien un lieu de contamination. À cause du variant anglais plus contagieux, les enfants peuvent attraper le virus et le transmettre. Le plus grand risque, on le sait également, c'est à la cantine. Et c'est pour cela que Jean-Michel Blanquer a demandé hier sur RTL à ce que les parents qui le peuvent ne mettent plus leurs enfants à la cantine. Il encourage aussi les enseignants de plus de 55 ans à se faire vacciner, comme lui l'a fait ce samedi.
Merci beaucoup Agathe Landais de notre brigade RTL. Et bonjour Karim Bacha.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis l'école élémentaire Samira Bellil à l'île Saint-Denis dans le département de Seine-Saint-Denis. Comment abordez-vous cette rentrée après 3 semaines de break ?
L'état d'esprit de la plupart de mes collègues est un sentiment de gâchis parce que 3 semaines et demie après le discours d'Emmanuel Macron, nous avons le sentiment qu'elles n'ont absolument pas été mises à profit pour réellement renforcer ce protocole sanitaire.
Le protocole que nous venons d'évoquer vous semble, ça veut dire inefficace, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt quand même à le mettre en place ?
Alors, on sera prêt à le mettre en place, sauf que son efficacité, on en doute, vu que la circulation du virus est plus forte aujourd'hui avant que nous ayons fermé. Et avant la fermeture des écoles, clairement, l'épidémie circulait énormément. On a mis des mois, Jean-Michel Blanquer était quasiment dans un déni total. Et aujourd'hui, on se rend compte notamment des points d'achoppement, comme la cantine. C'est bien, mais c'est peut-être un peu trop tard.
Monsieur Bacha, ça veut dire qu'il ne fallait pas réouvrir nos écoles ?
Alors si, mais comme je vous le disais, nous on a le sentiment que ces 3 semaines et demie n'ont absolument pas été mises à profit. On n'a pas avancé sur les capteurs de CO2 qui permettent de faciliter l'aération. On n'a pas avancé sur la protection des personnels, que ce soit la vaccination, mais des choses encore plus simples. Je pense à mes collègues de maternelle, par exemple, où nous pourrions au moins leur fournir des masques beaucoup plus efficaces du type FFP2. Mmh. Voilà, je pense à la vaccination qui aurait pu être commencée par exemple le public le plus exposé, comme les enseignants dans les classes d'élèves en situation de handicap, dans les classes de maternelle où les enfants ne portent pas le masque. Voilà, sur toutes ces questions-là, on n'a absolument pas avancé.
Vous nous dites ce matin que vous allez réouvrir la peur au ventre.
Alors, la peur au ventre, pour être très honnête, moi, non. Beaucoup de collègues, je pense que oui. Et avec, encore une fois, ce sentiment qu'on a depuis des semaines et des semaines, c'est que l'ouverture, l'entêtement, le quoi qu'il en coûte dont parlait Jean-Michel Blanquer, se fait sur le dos, sur la santé des enseignants. C'est-à-dire que nous, on en est quand même à avoir des difficultés à être fournis en gel. Je vous parlais de la qualité des masques, elle n'a pas toujours été au rendez-vous. Ceux fournis par l'Éducation nationale n'ont pas toujours été fiables à 100%. Et voilà, donc on revient à l'école en étant convaincu que ce seront des lieux de contamination et ce ne seront pas des lieux qui permettront de freiner l'épidémie.
Alors j'ai bien compris ce qu'était le message à votre ministre, vous avez été parfaitement clair. Est-ce que vous avez un message à l'attention des parents ce matin avant de nous séparer ?
Alors je leur souhaite une bonne reprise du travail s'ils ont eu la chance d'avoir un peu de vacances. Je leur souhaite bon courage parce que ils vont être prévenus dès ce matin, dès demain matin, de l'absence parfois de leur enseignant, de l'enseignant de leur enfant, et ils devront au dernier moment, au déboté, trouver une solution de garde, car nous ne pourrons pas accueillir leurs enfants à l'école.
Pourquoi seront-ils prévenus au dernier moment et pourquoi ces enseignants ne sont-ils pas là ?
Alors, les enseignants ne seront pas là pour diverses raisons, y compris le Covid, et ils ne seront pas remplacés, parce que Jean-Michel Blanquer annonce depuis vendredi 5000 recrutements, sauf que les 5000 recrutements ont eu lieu en novembre et décembre, et aujourd'hui, quelle que soit la procédure qui sera mise en œuvre pour recruter, nous n'aurons pas de remplaçants avant des semaines et des semaines, parce que un enseignant, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et donc, il n'y avait pas de remplaçants en mars, il n'y en aura pas plus au mois d'avril-mai. Et beaucoup de parents se retrouveront dans cette difficulté et peut-être que ce sera mon cas aussi en tant que parent. Et je nous souhaite à tous et toutes bon courage.
Karim Bacha, qui est directeur de l'école élémentaire Samira Bellil à l'Île-Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Merci Monsieur Bacha d'avoir pris la parole. Bonne journée à vous. Je salue Laurent Lecor qui se trouve à vos côtés dans le camion rouge RTL pour établir cette liaison. Dans un instant, on retrouve Louis Baudin et son bulletin météo. Nous allons rire avec les fake news de nos grosses têtes et retrouver une nouvelle pépite signée Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour et bonjour à tous.
Et à tout de suite.
Oui, à tout de suite.
RTL Matin.
Toujours avec vous.
RTL Matin, Yves Calvi.
Anthony Martin, on retrouve en ce lundi matin votre pépite.
Alors un clin d'œil à la cérémonie des Oscars qui vient de s'achever à Hollywood. Il y a 52 ans, le compositeur Michel Legrand remportait la première de ses trois statuettes grâce à cette chanson interprétée par Noël Harrison. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. The Windmills of Your Mind, version originale de 1968, musique du film L'affaire Thomas Crown avec Faye Dunaway et Steve McQueen. Michel Legrand a composé cet air sublime en s'inspirant de 7 symphonies de Mozart. La chanson The Windmills of Your Mind, qui deviendra un an après en français Les Moulins de mon cœur, a été reprise plus de 400 fois. La dernière version en date, on la trouve dans un disque qui est sorti vendredi. Ah. L'album s'appelle Surrounded by Time et l'artiste s'appelle Tom Jones, le chanteur gallois de She's a Lady et de Sex Bomb à 80 ans. Et il reprend les chansons qui l'ont accompagné toute sa vie, des titres signés Cat Stevens, Bob Dylan et The Windmills of Your Mind de Michel Legrand en fait partie. C'est notre pépite du jour, la version personnelle de ce grand classique par Tom Jones. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, all the ripples from a pebble someone tosses in the stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind.
J'ai connu Piaget, je Ah, c'est sombre.
Ou alors ça annonce le débarquement en Normandie.
C'est sombre et crépusculaire. Cet extrait du nouvel album de Tom Jones. On peut traduire le titre de son disque Surrounded by Time par Cerné par les années. Ceci explique peut-être cela.
Ah oui, d'accord.
Tom Jones a confié qu'il s'agit là, en plus, de son ultime projet musical.
Merci beaucoup, Anthony.
Et on se dit à demain. Je rappelle qu'on retrouve vos pépites musicales en podcast via l'application d'RTL. Les grosses têtes, chaque jour, dès 15h30, Laurent Ruquier, ses sociétaires et leurs fake news.
Chaque matin, je fais des exercices de diction. Je répète 10 fois.
Oh non.
16, sèche et sage, Jacinthe. Sèche dans 16 sachets sales. Et ça marche.
Tu l'as dit lentement, là.
Laurent Baffi.
J'ai été vacciné avec le vaccin AstraZeneca.
C'est crédible, hein?
Oui, Caroline Diamant. Bah,
c'est crédible.
Oui, oui.
Le docteur qui a fait mon test de QI auquel j'ai obtenu 130 vient d'être rayé de l'ordre des médecins pour cause d'erreur médicale.
Rendez-vous dès 15h30 dans le grand studio RTL avec toute l'équipe de Laurent Ruquier. Bonjour Luc Baudin.
Bonjour Yves, bonjour
à tous. La France est coupée en deux, ouais. Mais le soleil ça sera pas pour le sud.
Eh bah tiens, et pas dans le sens classique effectivement, parce que le soleil ça sera pour la moitié nord et les nuages pour le sud. Alors la limite entre les deux zones passera en gros par La Rochelle rejoignant Besançon. Au nord donc, du soleil toute la journée avec parfois un petit voile nuageux sans conséquence. Au sud, là, de l'instabilité, des averses, j'en vois déjà beaucoup, des Pyrénées aux Alpes ou encore autour du Massif central. Et ça va être comme ça tout au long de la journée avec ces averses, parfois accompagnées d'orages, notamment autour du golfe du Lion. Et au milieu de tout ça, de rares, très rares éclaircies. Le vent sera de la partie également du côté de la Corse. Vent de nord-est assez fort près de la Manche. D'ailleurs, c'est ce vent qui empêche les perturbations de remonter jusqu'à nous. Donc, on le remercie. 80 km/h. Puis côté température, une gelée à Charleville-Mézières ce matin, dites donc.
Dites donc.
Oui, bah voilà. Avec moins 2 degrés. On a déjà 15 degrés à Biarritz. Cet après-midi, on sera entre 12 et 16 degrés sur le littoral de la Manche, mais encore 17 à 22 degrés dans les autres régions.
En avril, ne te découvre pas d'un film, c'est vrai. Ma grand-mère. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 26 avril. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et si je vous dis profession prioritaire pour la vaccination, vous me dites soignant. Enseignant, policier, caissière.
Bien sûr.
Vous en oubliez une. Œnologue.
Ah bon?
Profession à risque car le Covid peut faire perdre le goût et l'odorat, et cela pendant plusieurs mois. C'est ce qui est arrivé à Maude Mangold. Elle est étudiante en sommellerie en Alsace. Ça fait 6 mois que ses 2 sens lui font défaut et il ne lui reste que ses yeux pour tester ici un Bourgogne blanc.
Donc on peut déjà voir que le vin a une robe plutôt jaune clair, très brillante, avec des reflets dorés. Dans mon cas, je sens pas grand chose. Malheureusement, c'est-à-dire que je sens qu'il y a quelque chose dans le verre, c'est pas comme s'il y avait de l'eau. Je sens la fraîcheur, je sens l'alcool dans le nez, mais je n'arrive pas à distinguer ces odeurs. Pour moi, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Vraiment, j'avais dit tout, je peux avoir le Covid, je peux être malade, c'est pas grave, mais pas perdre le goût et l'odorat. On se dit, comment on va faire ?
Propos recueillis pour RTL par Yannick Collant. Les œnologues réclament donc le droit d'être vaccinés en priorité. Eux, ils veulent se protéger du Covid. Il y a ceux, à l'inverse, qui ne respectent pas la prudence la plus élémentaire. Une fête clandestine a rassemblé plusieurs centaines de jeunes hier après-midi dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Sono à fond, pas de masque, zéro distance. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Et les gardiens du parc ne sont intervenus qu'à 19h pour faire respecter le couvre-feu.
C'est un début de retour à la normale. L'école reprend ce lundi après 3 semaines de parenthèse.
Alors pour l'instant, seuls les élèves de primaire retrouvent leurs profs et avec un protocole sanitaire très strict, les classes seront fermées au premier cas de Covid signalé. Le gouvernement déploie aussi 400 000 tests salivaires par semaine et aussi désormais des autotests à destination des enseignants. Précision de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Ils auront la possibilité d'utiliser l'autotest 2 fois dans la semaine, mais pas forcément le premier jour. C'est vrai pour l'école primaire, ce sera vrai pour l'enseignement secondaire dès la semaine suivante. Et c'est là aussi assez unique en Europe d'avoir cela. Donc c'est un progrès. La première vague, c'était les tests antigéniques que nous avons fait au premier trimestre. Ensuite, les tests salivaires, qui continuent. Et en troisième lieu, les autotests qui arrivent maintenant. Oui, et ces 3 types de tests continuent à exister dans notre système.
Jean-Michel Blanquer qui était hier l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI pour les collégiens et les lycéens. La rentrée en présentiel, ce sera dans une semaine. Dans l'immédiat, il faut encore en passer par l'enseignement à distance. On scrute évidemment un éventuel bug comme ça s'était produit au début du mois. À Paris et dans toute la France, des milliers de personnes ont manifesté hier pour dénoncer l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi, cette retraitée juive tuée en 2017. La Cour de cassation a confirmé le caractère antisémite du crime, mais elle a aussi acté l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Il était en pleine bouffée délirante après avoir consommé du cannabis. Pour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, il y a là un vide juridique à combler.
La loi, il faut peut-être la préciser, il y a une irresponsabilité pénale pour les fous. Mais là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une extrapolation sur quelqu'un qui avait pris du cannabis. Si on continue comme ça, ça veut dire que cannabis, alcool seront des excuses à des tueries.
Un projet de loi sera présenté fin mai pour que ce type de situation soit prise en compte, la drogue, l'alcool. Mais Céline Parizeau de l'Union syndicale des magistrats n'est guère convaincue.
Je ne vois pas très bien actuellement où est le vide juridique. On peut imaginer que la consommation de stupéfiants ou d'alcool deviendrait une circonstance aggravante, par exemple pour le meurtre ou pour des violences. Néanmoins, à partir du moment où la consommation engendre un état dans lequel vous n'avez plus aucune conscience de ce que vous êtes en train de faire, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir juger ces personnes.
Céline Parizeau avec Mourad Djabari. Dans les Yvelines, un hommage sera rendu cet après-midi à Rambouillet à cette policière tuée vendredi dernier dans son commissariat. L'agresseur a été immédiatement abattu. Le procureur antiterroriste a évoqué hier un individu clairement radicalisé mais qui présentait aussi des troubles de la personnalité. On passe au foot. 34e journée de Ligue 1 et Lyon a laissé passer une occasion en or hier soir face à Lille. L'OL menait 2-0, mais le LOSC a réussi à renverser la vapeur. Victoire finale 3-2. Et les Lillois reprennent donc leur place de leader devant le PSG et Monaco, vainqueur d'Angers 1-0. L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, se prend à rêver d'un titre.
C'est une grande performance. Le scénario est un scénario incroyable. On a frôlé la correctionnelle en première période. Et quand vous êtes mené à la pause et que vous avez le bonheur de l'emporter contre un concurrent direct, à la veille de la 35e journée, vous êtes premier. Ben, il vous passe beaucoup de choses par la tête en disant « il ne reste plus que 4 matchs ». Si on arrive à les gagner, ben on créera l'espoir.
Christophe Galtier avec Raphaël Vantard. Le foot, c'est aussi la Coupe de France. On connaît maintenant l'affiche des demi-finales. Le PSG se déplacera à Montpellier et Monaco jouera chez Léo Savoyard de Rumilly-Vallières, le petit poussé. Rendez-vous le 12 mai. Un Français couronné aux Oscars, Florian Zeller, a été récompensé pour le scénario de son premier film The Father, adaptation de sa pièce à succès Le Père. Au passage, Anthony Hopkins a raflé l'Oscar du meilleur acteur, mais le grand triomphe de cette cérémonie, c'est Nomadland, sacré meilleur film, Oscar de la meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao et Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand.
Nous y reviendrons largement à cette soirée des Oscars à 9h dans Laissez-vous tenter avec Stéphane Boutsock. Et puis, retour en France avec cette information RTL. Eddy Mitchell, Laurent Gérard seront bientôt ensemble sur scène.
Oui, pour un spectacle mêlant humour et chanson. Ça s'appellera À crédit et en stéréo. Diffusion en direct et en streaming le 27 mai prochain. Au programme 18 chansons de Monsieur Eddy, des duos surprises, des sketchs bien sûr. Ça leur est venu comme ça.
Je tournais moi un film et je savais que Laurent était à Lyon, donc on s'est appelé, on a dîné ensemble. Et donc c'est venu de là, entre la poire et le fromage, comme on dit.
Ce sera un spectacle inédit. En direct et avec un orchestre, donc c'est ça qui est important. On a nos pianistes, chacun notre pianiste.
Ah non, c'est très concret, au contraire. Ah non, virtuel, il faudrait des effets spéciaux, il faudrait Godzilla, King Kong, des choses comme ça. On n'a pas les moyens.
Mais on a les moyens d'avoir un bar, donc c'est déjà pas mal. Oui, au moment où ils sont fermés, c'est quand même pas mal.
Billetterie ouvre aujourd'hui pour ce spectacle, tarif unique à 29,90 €.
Nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une, Isabelle.
Oui, on verra que ce n'est pas facile d'aller chez le médecin quand on est en surpoids ou obèse. La grossophobie ne s'arrête pas à la porte du cabinet, au contraire.
À tout à l'heure. Merci beaucoup, Isabelle. Il est 7h37. Bonjour, François Langlais.
Bonjour, Yves.
Ce matin, vous restez dans la cuisine?
Oui, et qu'est-ce qu'on fait dans sa cuisine à 7h37?
On prend son petit déjeuner.
Et on prend son petit déjeuner, et près de soi, généralement, il y a un appareil qu'on considère avec peu d'attention,
oui.
Alors qu'il est en train de devenir stratégique. Le grille-pain.
Ah bah le grille-pain essentiel.
Pourquoi vous ne regarderez plus jamais votre grille-pain comme avant? C'est dans un instant.
Ça navigue. La vie sans grille-pain, ça n'existe pas. A tout de suite avec François Langlais pour l'Angleco.
RTL Matin, Yves Calvi.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38. L'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
La pénurie de composants électroniques pourrait désormais frapper nos appareils électroménagers.
Alerte sur nos grille-pains et nos lave-linges. La fabrication de ces appareils requiert en effet des puces électroniques pour les programmer notamment. Mmh. Et voilà que les industriels n'en trouvent plus. Pénurie qui frappe déjà l'industrie automobile. Volkswagen, par exemple, a dû réduire sa production de 100 000 voitures au premier trimestre. Ford vient de fermer 12 usines aux États-Unis. Jaguar Land Rover 2 au Royaume-Uni. Renault remet en cause son calendrier de production. Et c'est la même chose pour les fabricants de téléviseurs, de smartphones. Samsung, par exemple, a repoussé la sortie de son nouveau terminal à l'année prochaine.
Mais pourquoi une pareille pénurie ?
Incroyable conjonction de facteurs. D'abord, l'épidémie, à double titre. Oui. Elle a fait considérablement augmenter la demande d'ordinateurs et de téléphones à cause du télétravail. Or, ces appareils nécessitent beaucoup d'électronique. Et puis, elle a désorganisé les chaînes de production de puces elles-mêmes pendant le confinement. Ensuite, tempête de neige au Texas, il y a quelques semaines, qui a perturbé les usines. Puis, le déploiement de la 5G dans le monde, qui est très consommateur d'électronique aussi. Mm-hmm. Puis, encore des stocks de composants faits par la Chine, qui redoutent de ne plus pouvoir se fournir en produits technologiques à cause des sanctions américaines. Enfin, alors, une incroyable sécheresse à Taïwan. Taïwan, vous savez que c'est une île au sud-est de la Chine qui est le premier producteur mondial de semi-conducteurs. Ce sont justement les puces électroniques qu'on appelle comme ça. Pour la première fois depuis 56 ans, aucun typhon n'a frappé Taïwan. Donc les réserves d'eau sont au plus bas. Or, oui, l'industrie des puces a besoin de beaucoup d'eau, notamment pour les laver quand elles sont fabriquées. TSMC, c'est le premier fabricant mondial, consomme à Taïwan 156 000 tonnes d'eau par jour. C'est l'équivalent de 60 piscines olympiques.
Mais c'est ahurissant tout ça. On ne peut pas installer de nouvelles usines ?
En fait, c'est en cours, bien sûr, mais c'est long, c'est cher. Une usine dernier cri, c'est 20 milliards de dollars d'investissement. Donc, ça fait une marche assez haute à franchir. TSMC, toujours lui, projette d'investir 100 milliards dans les prochaines années. Il va notamment construire une gigantesque unité à Phoenix, dans l'Arizona. C'est aux États-Unis.
Et en Europe ?
On n'a que peu de capacités parce que, en fait, nous sommes très largement dépendants de l'Asie, Taïwan, Corée du Sud. Nous avons bien un fabricant franco-italien, s'appelle oui. SMT, Héritier Thomson, c'est une très belle entreprise, mais les puces les plus évoluées, les plus petites, sont fabriquées exclusivement à Taïwan. Pour vous donner une idée de ce qu'on fait en ce moment, on en est à faire des objets de 3 nanomètres. Ça fait 3 milliardièmes de mètres. C'est la longueur de pouce d'un ongle en 3 secondes.
C'est pas vrai.
Ça fait pas grand-chose. Ça demande évidemment une technologie très sophistiquée. Pour réduire notre dépendance, il y a un projet d'implanter une usine TSMC en Europe, mais les Français voudraient l'installer près de Grenoble, à Crolles, où se trouve déjà un pôle technologique de l'électronique, justement, il s'appelle Minalogic. Mais les Allemands tirent de leur côté et voudraient faire venir les Taïwanais à Dresde, en Saxe, dans les anciens Länder de l'Est. C'est là que se trouve le second centre d'expertise européen, il s'appelle Silicon Saxony. Joli nom. France contre Allemagne, c'est Taïwan qui va arbitrer ce match décisif pour l'avenir de nos grille-pains.
Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site rtl.fr comme chaque jour. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Le gouvernement veut déconfiner progressivement, pas à pas, qu'en dit le patron des patrons. Est-ce qu'il trouve le gouvernement trop timoré ?
A tout de suite avec Geoffroy Roux de Bézieux sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour.
Il n'y aura pas de grand soir des réouvertures. Cette phrase, c'est le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui l'a prononcée hier. Autrement dit, tout ne va pas rouvrir tout d'un coup le 15 mai. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous comprenez ?
Nous, on demande pas un grand soir des réouvertures, on demande un petit matin, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse rouvrir, même dans des conditions dégradées. Toutes les entreprises, tous les secteurs ont imaginé des protocoles sanitaires pour protéger leurs salariés d'abord et leurs clients ensuite. Et ils sont prêts à réouvrir. Alors c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans le commerce, c'est vrai dans la restauration.
Ça veut dire que vous trouvez le gouvernement trop prudent, trop timoré ?
C'est pas à moi de décider quand on doit réouvrir, parce que je me suis pas improvisé médecin ou épidémiologiste depuis un an. Simplement, moi ce que je crois, c'est que tout est préférable à la fermeture. Et qu'il faut mieux réouvrir avec des restrictions sanitaires, avec évidemment des mesures compensatoires financières, plutôt que de rester chez soi, de pas commercer. La situation financière des entreprises, enfin celles qui sont fermées, commence à être dramatique. La situation psychologique aussi hein, des entrepreneurs, des commerçants, des patrons, des salariés. Donc il faut qu'on, le 15 mai, si possible même le 10 mai avant l'Ascension, on puisse réouvrir.
Le
même partiellement.
Avant, oui, avant le week-end de l'Ascension.
Ça dépend encore une fois des chiffres de pandémie. Mais il y a un grand week-end qui se prépare. Il y a des commerces qui pourraient faire des bonnes journées de chiffre d'affaires. Et donc, c'est l'occasion de réouvrir. Les centres de plus de 10 000 m² sont fermés depuis le mois de février. Ça fait maintenant 4 mois, enfin presque 4 mois. Donc, voilà, il faut y aller.
Le 10 mai, à partir du 10 mai, avant le week-end de l'Ascension, vous dites... On rouvre les commerces, on rouvre les restaurants, pas seulement les terrasses ?
Non, je ne me mets pas à la place du ministre de la Santé. Si c'est les terrasses, ouvrons-les le 10 mai, avec, en respectant évidemment les terrasses. C'est déjà, alors c'est un restaurant sur quatre, hein, les terrasses. Donc c'est pas non plus phénoménal.
Y a ceux qui n'en ont pas,
mais
voilà.
Je crois que le signal psychologique de ça y est, on est reparti. On sort de ce confinement, peut-être petitement, peut-être pas avec le grand soir, comme a dit monsieur Attal, est très important. Le président de la République a parlé dans son discours, là, d'il y a quelques semaines, de mi-mai. Il nous faut un signal, mais c'est vrai pour les restaurants en terrasse, c'est
vous
vrai pour
vous
les musées.
Vous demandez avant la mi-mai, hein.
Oui, enfin mi-mai, on va pas jouer sur les jours, mais c'est vrai que psychologiquement, il y a ce grand week-end qui est, je pense, important pour tout le monde.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, cela veut dire que pour vous, aujourd'hui, il n'y a plus de logique sanitaire et que c'est l'intérêt économique qui doit primer ?
Non, bien sûr que non. Simplement, les entreprises se sont adaptées. Quand le virus est apparu, on a tous été pris de court, on a tout fermé à toute vitesse, violemment. Ça a coûté très cher en termes économiques, mais aussi sanitaires. Là, je ne parle pas de la pandémie, mais de la santé psychologique. Maintenant, j'allais dire, on sait faire. Dans les commerces, on sait faire. On a mis des plexiglas, on a mis des systèmes de queue. Vous l'avez tous vu, on porte les masques. Il n'y avait pas de masque. Hein. Il faut se souvenir qu'en mois de mars, il n'y avait pas de masque. Donc, on est prêt. On sait comment faire. Les musées sont prêts à accueillir des touristes, enfin des visiteurs avec un protocole. Les cinémas aussi, etc., etc. Donc, c'est ces protocoles-là qui sont prêts et donc qu'il faut prendre en compte. Toutes les études montrent d'ailleurs que ce n'est pas dans les commerces qu'on se contamine. Hein. On sait bien que c'est chez soi.
Alors, ce que montrent les études, en revanche, c'est que le virus ne circule pas de la même manière partout. Est-ce que vous pensez qu'on peut rouvrir à Paris, où le virus circule beaucoup, de la même manière qu'au Croisic ?
Oui, alors on peut territorialiser, c'est l'expression en vogue. Il faut prendre en compte, alors à condition qu'il y ait des écarts importants, il faut prendre en compte la circulation du virus. Moi, je ne serais pas choqué qu'effectivement, ce soit par exemple les terrasses en Île-de-France, qui est un endroit où ça circule beaucoup, et qu'on puisse rouvrir plus que les terrasses ailleurs, dans les zones où le virus circule moins.
On peut imaginer, par exemple. Donc vous pensez que c'est comme ça que ça va se faire ?
Ah, c'est pas moi qui suis au gouvernement. Ce n'est pas moi qui suis au gouvernement. Mais c'est une possibilité. Ce qu'ont fait les Allemands depuis le début de la pandémie, hein, où ils ont géré en fonction des Landes. Alors, c'est leur tradition. Donc, prendre en compte la circulation du virus, s'il y a des écarts, c'est important.
Voir les images des pays étrangers où les terrasses sont ouvertes,
ça fait un peu mal. Ça... c'est vrai qu'on a tous envie d'aller en terrasse boire une bière, ou autre chose, hein, d'ailleurs, suivant.
Ou
un café, oui, je ne vais pas pousser la consommation d'alcool. Après, c'est une bonne nouvelle quand même quand on voit l'Angleterre qui a très mal géré le début de la pandémie, et puis qui a pris partie de la vaccination très vite, où il y a plus de 50% des adultes qui ont au moins une dose, ça nous laisse de l'espoir. Et là, on est en train de rattraper, en tout cas de vacciner à haute dose. Donc je crois que c'est important. Moi, je dis à tous ceux qui peuvent se vacciner, qui ont plus de 55 ans, allez vous faire vacciner. Moi, je vais y aller la semaine prochaine, j'ai attendu mon tour. Je crois que c'est important de se faire vacciner, c'est aussi protéger les autres.
Justement, et la vaccination en entreprise, je me disais, est-ce qu'il faut ouvrir aux actifs, comme le propose le maire de Nice, Christian Estrosi ? Actifs.
Non, mais bien sûr, nous, on souhaiterait que tous nos salariés, en tout cas tous ceux qui sont en contact avec le public, puissent être vaccinés. Il y a une
condition d'âge ?
Sans condition d'âge, il y a une première liste qui a été faite. Tout le problème, c'est le nombre de doses et leur répartition. Aujourd'hui, les médecins du travail, hein, puisque seuls les médecins du travail, les services de santé au travail peuvent vacciner, n'ont pas assez de doses pour vacciner tout le monde. Mais il serait logique que les caissières, enfin tous les gens qui voient du public, sont plus exposés quand même, toutes choses égales par ailleurs, qu'ils soient vaccinés rapidement.
Les personnes prioritaires.
Petite précision quand même, parce que la question nous avait souvent été posée, la vaccination, elle n'est pas obligatoire, petit 1, et 2, un employeur ne peut pas imposer la vaccination, et surtout il ne peut pas savoir si son employé est vacciné. Donc on ne veut pas tomber de ce côté-là non plus. Mais c'est plus un encouragement.
Est-ce qu'il faut, Geoffroy Roux-de-Bézieux, imposer le passeport vaccinal ou le pass sanitaire?
Alors, c'est l'imposer, ce à quoi réfléchit, non, l'imposer sûrement pas. Encore un pays de liberté, j'espère, pour longtemps. Par contre, pour certains événements, comme par exemple les salons professionnels, pour les voyages, je pense que c'est raisonnable, ce n'est pas une privation de liberté de demander un passeport sanitaire. Si vous faites le mondial de l'auto ou n'importe quel salon professionnel, il y a des gens qui viennent du monde entier, à l'entrée, demander un passeport sanitaire. C'est quoi le passeport sanitaire ? C'est où je suis vacciné, où j'ai un test récent qui montre que je ne suis pas contagieux. Par contre, il ne faut pas mettre le passeport sanitaire pour aller prendre un café en bas de chez soi
ou aller dans un commerce.
Voilà.
Non.
Non, je crois pas. Je crois qu'il faut trouver... Moi, j'ai en tête un chiffre de 1000 personnes, si vous voulez. Quand vous avez 1000 personnes réunies, il y a quand même une possibilité de cluster. Il faut que ça soit un événement payant. Il faut que ça soit un endroit où les gens vont volontairement aller. Encore une fois, j'entends ceux qui disent « on me prive de liberté ». En même temps, aujourd'hui, vous déposez vos enfants à la crèche, on vous demande qu'ils soient vaccinés. Enfin, pour eux, bien sûr, mais aussi pour les autres enfants de la crèche. Donc, c'est une question de bien commun, d'une certaine manière.
Vous regrettez que le gouvernement n'ait pas suspendu plus tôt les vols, notamment avec le Brésil, ou imposé une véritable quarantaine plus tôt ?
Ils ont réagi assez vite. Moi, je ne suis pas dans cette polémique-là.
Assez vite ?
Ils ont mis quoi, 15 jours à peu près pour ça, écoutez, c'est quand même compliqué aussi, hein, parce qu'on va vous dire, mais attendez, il y a des Français au Brésil, etc. Là, j'ai vu qu'ils ont suspendu pour l'Inde. Mmh. Enfin, ils ont mis une quarantaine pour l'Inde. Est-ce que c'est rapide ? Pas assez rapide. Je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, si tous les restaurants rouvrent comme vous le souhaitez, on arrête les aides ?
Oui, alors progressivement. Le quoi qu'il en coûte, c'est... D'ailleurs, le mot aide est assez injuste. Ce sont des mesures de compensation de fermeture. Vous mettez des restrictions sanitaires, vous compensez financièrement. À partir du moment où les restrictions s'arrêtent, il faut supprimer ces compensations. Simplement, il faut le faire proportionnellement. C'est-à-dire que s'il y a les terrasses, pour prendre cet exemple-là, qui réouvrent encore une fois mi-mai, et je le souhaite, les terrasses, c'est... Alors, ça dépend des restaurants et de la taille de la terrasse, mais 30% du chiffre. Donc, avec 30% du chiffre d'affaires, on ne vit pas. Donc, il faut garder une partie d'aide, le chômage partiel, le fonds de solidarité. Et puis, dès que les compensations seront arrêtées, les restrictions, pardon, seront arrêtées, on arrête les compensations. C'est logique. Avec quelques exceptions, parce qu'il y a des secteurs comme l'événementiel qui vont mettre un temps de démarrage.
J'allais dire, les aides ont donné quand même de l'oxygène à beaucoup de secteurs. On a vu même qu'il y avait moins de faillites en 2020 qu'en 2019. Vous ne craignez pas qu'à l'arrêt des aides, il y ait des dépôts de bilan ou des faillites ? En mars, il y a eu une accélération des défaillances des entreprises.
Très légère, très légère.
Ça ne va pas s'accentuer.
Si vous voulez, deux choses. Oui, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire secteur par secteur. C'est pas pareil de rouvrir un restaurant. Je pense que quand les restaurants rouvriront, je sais pas si vous allez vous y précipiter, mais moi,
il y a des chances.
On a tous envie d'aller voir les copains, etc. Donc bon, mais quand vous êtes organisateur de salons, d'événements, ça met du temps. Les spectacles, je sais pas si les gens y retourneront aussi vite. Donc il faut être secteur par secteur. C'est un travail compliqué. Bruno Le Maire, là, dans une réunion qu'on a la semaine dernière, il dit, vous voulez faire de la dentelle, oui. Je crois qu'il faut faire de la dentelle, c'est compliqué. Après, est-ce qu'il y aura un mur de faillite ? Je crois pas. Il faut qu'on
pas
regarde.
Pas de faillite en cascade, non, selon vous ?
Il y aura bien sûr une augmentation des faillites, puisqu'il y a eu ce retard. Mais moi, je vois la situation financière des entreprises. Elle est plutôt en cash, pas en exploitation, mais en cash, elle est plutôt bonne à cause du PGE. Ce qu'il faut,
prêt garanti par l'État.
Pardon, les prêts garantis par l'État. Il va falloir les rembourser. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas rembourser les PGE. Par contre, il y aura quelques cas, notamment restauration, qui a beaucoup souffert, où il faudra pendant trouver un autre système, peut-être d'extension du temps de remboursement.
Au moins pour le mois de mai ?
Non, plutôt
au-delà.
Non, puisque vous savez que vous avez un an, non, vous ne savez peut-être pas que vous avez un an de plus, donc les premiers remboursements commenceront effectivement en mai prochain. C'est en mai prochain où là on verra plus clair sur la pandémie que se posera la question.
Vous craignez des problèmes de main-d'œuvre dans les restaurants ?
Alors c'est le paradoxe. C'est qu'on est un pays où il y a eu 300 000 chômeurs de plus l'année dernière, et pour autant, il y a des géographies, des endroits, en Vendée par exemple, ou des secteurs on n'arrive pas à recruter. C'est le mal français depuis 20 ans, François Langlais le connaît mieux que moi. Mmh. Et oui, nos amis de la restauration nous disent qu'il y a 100 000 personnes qui étaient des saisonniers ou des serveurs ou des employés de restaurants qu'on ne retrouve plus, qui sont allés ailleurs.
Et comment on peut répondre à ces besoins ou à ces carences ?
C'est compliqué, c'est des métiers qui ne sont pas toujours très actifs sur le plan salaire, mais évidemment augmenter les salaires dans la restauration, c'est augmenter les tarifs pour les clients, donc ce n'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec nos amis syndicalistes sur la réforme de la formation. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont changer, et c'est en formant les gens qu'on arrive à résoudre en partie ces problèmes-là. Il y a un autre point qui est compliqué en France, on ne le dit pas beaucoup, c'est le déplacement géographique pour travailler. Il y a des zones en France, on ne le dit pas, à 4% de chômage.
4%, c'est le chômage un peu minimum. C'est ce qu'on trouve dans les pays qui sont en plein emploi. Et d'autres qui sont à 15. Et on a du mal, les Français, culturellement, ont du mal à bouger de l'un à l'autre.
La mobilité. Anne Hidalgo, Philippe Martinez ont salué le plan d'investissement du président américain Joe Biden, près de 2000 milliards de dollars sur 8 ans. Est-ce que vous plaidez chez nous pour une rallonge à notre plan de relance de 100 milliards, dont 40 milliards venant de l'Europe, je le rappelle ?
Alors oui, mais il faut dire une chose quand même, quand on compare les États-Unis à la France, c'est qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de protection sociale. Quand vous tombez au chômage, vous touchiez à l'époque, je crois que c'était 50 dollars par semaine. Quand vous tombez malade, si vous n'avez pas les moyens de payer, c'est vous qui payez votre hospitalisation. Et donc, une partie de ce plan de relance, il faut le comparer au système social français. Donc, par contre, oui, il faudra rallonger, et je pense qu'il faudra rallonger justement vers les secteurs qui ont beaucoup souffert, ce qu'on appelle l'économie présentielle, le tourisme, la restauration, etc. C'est là qu'il y a un manque dans le plan de relance.
Prolongé de combien ?
Écoutez, je ne vais pas vous donner un chiffre comme ça, mais de manière significative.
Merci Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Merci à vous.
On ne demande pas un grand soir, de réouverture, mais un petit matin, vient de nous dire Geoffroy Roux-de-Bézieux. Tout est mieux que la fermeture. Le président du MEDEF qui demande une réouverture, même partielle, avant le 10 mai. Le patron des patrons qui ne croit pas, par ailleurs, je cite, à un mur de faillite au moment de la reprise. Merci infiniment à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver, comme chaque jour, sur le site rtl.fr. Et Cyprien Sini va surfer dans quelques instants avec l'anniversaire de Love Story. Je ne savais pas qu'on fêtait l'anniversaire de Love Story. C'est une nouveauté. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Sini.
De retour de la Canebière, oui. Cyprien Sini. Fête les 20 ans de l'émission culte d'M6, Love Story.
Ah ben, il y a des jours où l'histoire avec un grand H nous rappelle à l'ordre, hein, puisque le 26 avril 2001, il y a tout juste 20 ans, la France subissait un séisme audiovisuel, un tourbillon médiatique, un tsunami, une déferlante, puisqu'on découvrait ça.
11 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24.
Jean-Édouard, Loana et compagnie entrés dans un loft et un tout jeune animateur, blondinet de 30 ans, qui faisait pas encore des pubs comme j'aime à la télé, se lançait timidement.
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission.
Ah bah oui, ça t'inquiète qu'on en ait entendu parler, Benji, hein, parce que le lancement du Loft en France, c'est pas vraiment passé inaperçu, souvenez-vous.
L'univers de la télévision est agité par l'émission Love Story.
Décidément, Love Story déchaîne les passions.
Attention, polémique et feu Dominique Baudis, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le grill.
Nous ne pouvons pas interdire une émission, nous pouvons en revanche adresser 4 mises en garde.
Ouh, 4 mises en garde, mais alors dès la première émission, ouais, Benjamin Castaldi, il y a un truc qui l'intéressait beaucoup plus que les mises en garde.
Alors là, c'est le jardin, la piscine, je crois qu'il y avait une piscine.
Vous voyez c'est une piscine en fait.
Ah oui, d'accord,
c'est
oui, parce qu'une douche,
une sorte de douche.
C'est moins convivial.
Piscine conviviale, il la sentait bien, il a eu le nez creux, Benji. Bref, une France qui au départ se divise entre pro et anti-Loft Story.
Les anti-Love Story se sont rendus à la plaine Saint-Denis devant le fameux loft pour tenter de s'y introduire.
Ils voulaient libérer les candidats, mais très vite, on va basculer dans l'irréel.
Les téléspectateurs n'ont que faire des préjugés et l'audience explose, plus 30% environ en moyenne. Les deux tiers des 15-24 ans et près de la moitié des très convoitées ménagères de moins de 50 ans suivent le quotidien des lofteurs.
Des scores d'audience hallucinants, 11,7 millions de Français devant la finale. Un score de finale de Coupe du Monde en fait. Hein. Un magazine papier Loft Story et même ça. Les soirées enflammées de Louis Baudin avec les chanteurs du Loft.
Ah oui, oui.
Un disque qui s'arrache. Et alors quand un lofteur se faisait sortir de la maison, c'est sans trucage. C'est l'émeute. Oui, ça c'est la sortie de Stevie Boulay le 26 avril 2001. Quelque chose a vraiment changé. Et depuis, ben, les Ch'tis, les Marseillais, les Anges, j'en passe et des meilleurs, charriant avec eux leur cargaison de pépites.
Donc toi, tu dis le Moyen-Âge, c'est 1930, et toi, tu dis c'est 1600.
Moi, j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux.
Que célèbre-t-on le 11 novembre ? La fête de la musique !
Tu viens de Belgique. C'est en France, la Belgique ?
Il a pris beaucoup de cultivité.
Oh oui, beaucoup de cultivité en pagaille. Et si fort heureusement, dans le mot télé-réalité, il y a télé, ben, on n'oublie pas qu'il y a aussi réalité. Et ça, parfois, ça fait quand même un peu flipper. Hein.
J'étais devant mon téléviseur pour la première.
Et bien sûr.
Merci beaucoup, Cyprien. Louis Baudin.
Oui.
Notre météo du jour, vous écoute.
Météo, oui, c'est ça. Oui. Avec sur la moitié nord.
Et bien sûr. On ira dans la piscine de l'Off.
Oui, c'est ça. Après. Ouais, il fait un peu frais quand même.
Un peu plus tard,
on
s'est bien compris. Ça dépend de la météo.
Ça dépend de la météo. On pourrait y aller cet après-midi dans la moitié nord avec effectivement le soleil qui dominera, qui réchauffera l'atmosphère, parce qu'on l'a vu que le matin avec le petit vent de nord-est, c'est pas toujours très agréable. J'ai même trouvé des gelées ce matin, notamment du côté de Charleville-Mézières. Et puis dans la moitié sud, c'est-à-dire au sud d'une ligne La Rochelle-Besançon, là c'est déjà très nuageux et ça le restera toute la journée avec des averses, parfois accompagnées d'orages, notamment sur le littoral méditerranéen. Le vent sera assez fort également du côté de la Corse. Et puis côté température, bien sous le soleil dans la moitié nord, on a ce matin des températures assez basses, je le disais. Et cet après-midi, on sera entre 12 et 16 degrés près de la Manche, 17 à 22 degrés dans les autres régions. Dans la moitié nord comme dans la moitié sud, ça sera très homogène.
Merci beaucoup Louis Baudin, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, un hommage et une loi après l'assassinat de la policière de Rambouillet.
Rassemblement prévu devant la mairie en fin de journée, trois jours après l'attentat ayant coûté la vie à cette femme de 49 ans. Le gouvernement va durcir cette semaine son arsenal antiterroriste. À suivre également la rentrée pour 6,5 millions d'élèves. Et puis deux sourires dans ce journal, celui des Lillois en football. Le LOSC fait un nouveau pas vers le titre. Et puis celui de Florian Zeller, le Français récompensé cette nuit aux Oscars.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, donc, la joie d'un Français qui a triomphé cette nuit aux Oscars. Vous avez pu suivre la cérémonie en direct sur RTL. Elle avait lieu dans un endroit inédit, une gare, la gare de Los Angeles, l'Union Station, pour permettre plus de distanciation dans le public. La joie d'un Français, disais-je, celle de Florian Zeller, dont la pièce Le Père a été adaptée à l'écran sous le titre The Father avec Anthony Hopkins. Deux statuettes, meilleur scénario adapté et meilleur acteur pour Anthony Hopkins, 83 ans, qui devient le comédien le plus âgé à recevoir cette récompense. Florian Zeller, joint pour RTL il y a quelques minutes par Stéphane Boutsock.
Je n'ai pas complètement réalisé, mais je suis toujours dans cet état de grande joie. Et de joie d'autant plus grande qu'en fait, on a commencé la cérémonie par l'Oscar du meilleur scénario et on l'a terminé par l'Oscar du meilleur acteur avec Anthony Hopkins. Et pour moi, c'est une joie vraiment particulière de le partager ce moment avec Anthony, dans la mesure où j'ai écrit ce film pour lui et voilà, le désir de faire ce film est pour moi indissociable du désir de le faire avec lui.
Est-ce que vous avez déjà passé un petit coup de fil à Anthony Hopkins ?
Oui, on s'est parlé il y a à peine 10 minutes. Il venait juste de l'apprendre parce qu'il n'était pas lui aux Oscars et de sentir son émotion qui était immense. Voilà, rien qu'en vous la transmettant, je suis traversé moi-même par une grande émotion.
Anthony Hopkins qui joue le rôle d'un vieil homme sombrant dans la démence. Florian Zeller est donc récompensé pour son premier film comme réalisateur. C'est un encouragement inespéré hein, dans ces circonstances en plus.
Oui, c'était une année tellement particulière. Je crois que ce n'était pas la meilleure année pour sortir son premier film. Alors, quand dans le même temps, il y a ces signes d'encouragement qui sont reçus, c'est quelque chose qui a d'autant plus de valeur. Mais pour être sincère, si c'était mon 10e film, je crois que je serais aussi heureux. On était à Paris, nous, puisqu'on n'a pas eu la possibilité de voyager à Los Angeles. Et donc, il y avait quelque chose de légèrement virtuel, mais quand même avec la possibilité de partager cette nuit, ce moment très particulier, ces récompenses du cinéma qui sont les plus importantes, avec d'autres gens à Los Angeles, d'autres à Londres, d'autres à Rome. Donc ça avait beaucoup de valeur.
Florian Zeller pour RTL, joint par Stéphane Boutsock, mais le grand gagnant de la nuit, hein, aura été Nomadland, un road movie sur fond de drame social. Film de la réalisatrice Chloé Zhao, la réalisatrice chinoise qui a raflé trois Oscars. Hein, ce film, des films que l'on verra en France dès la réouverture des salles, on espère, en mai ou début juin.
Il est 8h03 à Rambouillet dans les Yvelines. L'hommage à Stéphanie M, cette policière de 49 ans tué vendredi par un terroriste tunisien.
La mère de famille mortellement poignardée dans l'enceinte du commissariat travaillait là depuis près de 30 ans. Un rassemblement est organisé en fin d'après-midi devant la mairie, Mourad Jabari.
Devant l'hôtel de ville, oui, un hommage en présence du président du Sénat, Gérard Larcher, maire de Rambouillet pendant 27 ans, de la maire actuelle à ses côtés et entourée des habitants. Un moment de recueillement, une pensée pour Stéphanie. Elle travaillait à l'accueil du commissariat de la ville depuis 28 ans, tuée vendredi de deux coups de couteau. Vincent était son voisin.
Je suis attristé poil parce que voilà, moi j'ai trois filles, elle en avait deux, donc elles ont 13 et 18 ans, donc ouais, c'est dur, ça va être dur pour les filles, quoi. Inconsciemment, on se projette, on dit que ça aurait pu nous arriver à nous, quoi, donc ça fout les boules un peu pour elle, quoi. Ma fille de 12 ans la côtoyait en sortant du bus et rentrait souvent ensemble. C'est triste.
Une tristesse partagée par l'ensemble des habitants où la douleur et l'incompréhension.
C'est incroyable d'être à Rambouillet où on est une petite ville tranquille et revenir de déjeuner et se faire assassiner lâchement.
On laissait place peu à peu au fil des jours à une colère froide.
C'est inadmissible ce qui s'est passé. On ne doit pas toucher la police, on doit la respecter.
Il y a des années, on n'aurait jamais évoqué ce genre de choses. Là, c'est devenu débile.
C'est une colère intérieure, hein, parce que ce genre de choses, ça ne devrait pas exister. On ne respecte pas la police.
Une minute de silence sera évidemment observée et dans le hall de l'hôtel de ville, à destination des proches de Stéphanie, un registre de condoléances sera déposé.
Reportage à Rambouillet, signé Morad Jabari, du terroriste, un chauffeur livreur tunisien de 36 ans abattu dans la foulée de son geste. On sait qu'il s'était radicalisé récemment. Son père et deux cousins étaient toujours hier en garde à vue. C'est en 7 ans la 17e attaque contre des forces de l'ordre en France. Le gouvernement présentera mercredi un nouveau projet de loi antiterroriste censé compléter les dispositifs existants, notamment sur la surveillance.
RTL 8h05, a priori c'est la dernière rentrée des enfants. Les maternelles et primaires retournent à l'école ce matin.
6,5 millions d'élèves et puis dans une semaine ce sera au tour des grands, hein, des collégiens et des lycéens. Objectif maintenant, tenir jusqu'au coup d'envoi des vacances d'été le 7 juillet. Même si on est loin de l'éclaircie, il y a aujourd'hui plus de patients en réanimation qu'avant les vacances. Bonne rentrée à tous et continuons à appliquer les gestes barrières, vient de tweeter Emmanuel Macron. On va tout de suite prendre la température à Marseille. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour.
Vous êtes devant l'école de la Valentine, c'est dans le 11e arrondissement. A priori tout le monde est là ou il y a des absents?
Eh bien, dans cet établissement qui regroupe 300 élèves de primaire, tout le monde, ou presque, devrait être présent pour cette reprise. Vous savez que les écoles et les parents d'élèves communiquent désormais via Internet. Eh bien, il n'y avait pas de message hier soir indiquant des cas de Covid, ni d'élèves absents par crainte de la crise sanitaire avec laquelle, d'ailleurs, ils ont appris à vivre.
Et quel est l'état d'esprit des enseignants et des parents ce matin? Ils sont inquiets ou confiants?
Pour les parents, ils sont plutôt confiants. Pour les enseignants, c'est plutôt une prise de tête. Il y a plusieurs difficultés, notamment ces fermetures de classe dès le premier cas confirmé. Ils savent que ça va se produire à de nombreuses reprises. Et puis l'impossibilité aussi de répartir les élèves entre les profs en cas d'absence de l'un d'entre eux. Depuis 7h30, je vois le balai des parents qui sont en train de déposer leur petite tête blonde. Et pas particulièrement inquiet, je vous le disais, comme Stéphanie.
Bah écoutez, on est dans un état d'esprit plutôt serein, ça va. Je suis pas tellement inquiète.
Vous n'avez pas hésité à envoyer votre fille ce matin à l'école?
Ah, pas du tout. En même temps, j'ai pas trop le choix. Je ne peux pas m'absenter du travail, donc j'ai pas vraiment le choix.
Stéphanie qui travaille dans un hôpital, maintenant que les vacances sont terminées, que les grands-parents sont rentrés, l'école redevient un peu indispensable.
Alors, on le sait depuis hier, hein, Jean-Michel Blanquer l'a confirmé ou annoncé sur RTL, les enseignants vont bénéficier de 2 autotests par semaine. Est-ce que ça les rassure?
Ouais, tout à fait. C'est la principale nouveauté. Ici, en tout cas, il n'y a pas de retard dans la livraison, selon Christine Sanchez, la directrice de cette école, qui va les recevoir bientôt. C'est pour les enseignants et aussi pour le personnel, bien sûr.
Aujourd'hui même, on doit être livré ce matin. On va les avoir sur place. Alors, c'est sur le volontariat. On en a 2 par semaine pour les enseignants et pour les AESH de l'école, en fait. Voilà. 2 par semaine sur volontariat, bien sûr.
Des autotests qui devront être pratiqués à la maison et non à l'école.
Hugo Hamelin en direct de Marseille pour cette rentrée pour RTL. Merci Hugo.
Pour les collégiens et les lycéens, c'est donc une semaine de cours à distance qui commence. Mais pourra-t-on cette fois éviter les fameux bugs? Eh bien, nous allons en parler dans un tout petit instant. Restez avec nous. Bonne journée à tous. Il est 8h08.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Jérôme Florin. Pour les collégiens et les lycéens, la rentrée se fait aujourd'hui devant les écrans.
Dernière semaine d'enseignement à distance, les plateformes du CNED et les ENT, les espaces numériques de travail, seront encore fortement sollicités. On va essayer d'éviter les bugs en Syrie cette fois. Et d'après les prestataires que vous avez pu interroger, Juliette Jay, cette fois tout est prêt.
Oui, les systèmes de sécurité du CNED ont été renforcés pour contrer les cyberattaques, assure Michel Reverchon-Billot, le directeur.
On est lucide sur ce qui s'est passé la semaine du 6.
La plateforme Ma Classe à la maison devrait donc être accessible sans encombre.
On n'est pas à l'abri d'une attaque qu'on ne peut pas anticiper par nature, mais aujourd'hui, on est véritablement très armé et on fera tout pour garantir un service de qualité.
Le réseau avait aussi été saturé à cause d'un trop grand nombre de connexions sur les ENT, les environnements numériques de travail. Arnaud Alboudier dirige Open Digital Education, l'un des principaux prestataires de ces ENT.
Nous sommes sur le pied de guerre depuis plusieurs jours avec des ingénieurs qui travaillent, y compris la nuit et le week-end, pour mettre en place un dispositif optimal. Au cours des deux dernières semaines, donc, ces infrastructures ont augmenté de 30%.
L'entreprise a fait des tests grandeur nature avec un nombre de connexions une fois et demie supérieur au pic du 6 avril.
Nous déployons des moyens exceptionnels pour que tout se passe bien pour les familles, les enseignants et les élèves.
Tout semble donc sous contrôle. Verdict dans quelques heures pour les 6,5 millions d'élèves qui font leur rentrée en ligne.
Voilà, on verra tout ça tout à l'heure. Merci Juliette Jay.
Le football et Lille qui commence à y croire.
À 4 journées de la fin du championnat, ça sent bon pour le LOSC qui a repris la tête du classement après avoir battu l'Olympique Lyonnais 3-2. Les Lillois étaient menés 2-0 en première mi-temps. Le LOSC, un point devant le PSG dans les rues de Lille ce matin, on se prend à rêver.
Un match de fou, ils commençaient à 2-0, après ils sont montés à 3-2 et excellent franchement.
C'est un match de volley, bah, normal, on va gagner ce championnat. Hein. C'était le match le plus difficile, c'était un match de piège. Là, il nous reste 4 matchs contre Lens, là, j'espère qu'on va gagner ce titre. Déjà le gardien, il fait des arrêts de ouf depuis le début du championnat, il n'a pas fait des erreurs, la défense elle est, ce titre est pour nous.
Il a derrière le masque, on a le sourire ce matin quoi.
Ah ouais, hier j'étais trop content.
On est toujours premier et franchement c'est l'essentiel quoi.
Il reste 4 matchs encore. Hein.
Ouais, 4 matchs, ouais. On devrait la gagner mais ça va être dur, ouais. Parce que Paris derrière il lâche rien quoi. Ce qui est dommage à Lille c'est qu'on a des bons joueurs et ils partent très très vite, sinon je suis très fier d'être des dogs et j'espère que ça continuera. Rien n'est sûr mais là normalement on est bien parti pour prendre la Ligue. Allez le LOSC, allez les dogs.
Allez les dogs, propos recueillis par Franck Hanson. Lille en tête devant le PSG et Monaco qui complète le podium après avoir battu Angers 1-0. La cata continue en revanche pour Bordeaux battu 4-1 à Lorient. Puis la Coupe de France, résultat du tirage au sort, le Paris Saint-Germain se déplacera à Montpellier en demi-finale, c'est prévu le 12 mai. Et puis le petit poussé Rumi Valière affrontera Monaco.
Merci beaucoup Jérôme Florin, on vous retrouve à 9h.
Oh oui.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h13, c'est bientôt l'heure de rendre les copies. Les 27 pays de l'Union Européenne ont jusqu'à la fin de la semaine pour envoyer à Bruxelles les détails de leur plan de relance. Passage obligé s'ils veulent toucher leur part de l'enveloppe de 750 milliards d'euros promis face à la pandémie. La France doit d'ailleurs présenter demain son projet national. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous.
Quand les capitales vont-elles enfin toucher cet argent promis depuis juillet dernier?
Normalement, 13% des subventions devraient être versées en juillet prochain. Le calendrier est le suivant. Les États envoient leur dossier de demande de prêt et de subvention d'ici vendredi. À Bruxelles, une équipe d'une centaine d'experts se donne 2 mois, donc jusqu'à fin juin pour éplucher tout ça. Et puis elle transmet le dossier au Conseil européen, donc aux 27 chefs d'État et de gouvernement, pour un vote au maximum 1 mois après. Certains n'attendent pas. L'Espagne, par exemple, a déjà avancé 27 milliards d'euros pour un grand plan automobile. Elle espère être bien vite remboursée via ce plan de relance européen. Mais d'autres sont en retard. Les Pays-Bas, embourbés dans une crise politique, n'arriveront pas à rendre leur copie vendredi. Pareil pour la Bulgarie ou encore la Hongrie.
Alors, tous les obstacles sont levés, Bruxelles peut sortir le chéquier?
Oh, ça serait trop simple. Hein. Oui. Vous connaissez Bruxelles, c'est toujours la dernière minute. Le grand plan de relance européen, souvenez-vous, il avait été adopté par les 27 en juillet dernier, après 4 jours et 4 nuits de négociations. Maintenant, il doit être voté par les 27 parlements. Et là, ça traîne. Seuls 17 États, dont la France, l'ont fait passer. Les autres pas encore, ce qui a suscité l'irritation la semaine dernière d'Emmanuel Macron et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Mais c'est en cours.
Que doit comporter le dossier de candidature des 27 pays, Bénédicte?
Alors, l'argent demandé doit être fléché. Par exemple, 37% de l'enveloppe attribuée à un pays doit servir à la transition climatique. Et pas n'importe comment. En cas de rénovation énergétique d'une université, par exemple, il faut prouver que les matériaux utilisés sont biosourcés, donc qu'il n'ait aucun impact sur l'environnement. 20% du budget ensuite à la transition numérique. Par exemple encore pour équiper les écoliers en ordinateurs. On en parlait dans le journal de 8h, pour permettre l'école à la maison en cas de nouvelle pandémie. Il faut aussi financer de la formation, de la recherche, des hôpitaux ou encore l'accueil des jeunes enfants. On ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent.
Alors connaît-on déjà quelques détails du plan français?
Alors le plan de relance français, il a été chiffré à 100 milliards d'euros initialement. 40 milliards doivent être donnés par Bruxelles. Paris mise notamment sur l'hydrogène, la rénovation des passoires thermiques, 20% de nos logements quand même. Hein. L'installation de bornes électriques, de nouveaux trains. Et Bruxelles attend la France de pied ferme sur les réformes sociales, celles de l'assurance chômage et surtout celles des retraites. Tous les détails de ce plan dévoilés demain à l'Assemblée nationale.
Bon courage. Merci infiniment, Bénédicte Tassard. Nous suivrons ce dossier, bien entendu, grâce à vous. Dans un instant, Jean-Mathieu Pernin du Bureau de vérification de l'information reviendra
sur une déclaration de Jean Castex au sujet des variants présents en France. Et nous aurons droit à notre consultation quotidienne avec Michel Simès. Bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h18. Bonjour Jean-Mathieu Carnac.
Bonjour.
Alors je me suis un petit peu emballé, n'est-ce pas ?
Ça arrive.
Vous ayons écouté à 6h50 évoquer Jean Castex. Évidemment, l'évolution, l'information est toujours en évolution et en mouvement sur RTL. Et aujourd'hui, en fait, c'est la NASA dont vous allez nous parler. A-t-elle raison en affirmant que jamais la station spatiale n'avait accueilli autant de monde à son bord ?
Oui, alors c'est une image incroyable diffusée ce week-end. L'équipage de Thomas Pesquet pénétrant dans la station spatiale internationale après 24 heures de voyage et accueilli par les astronautes et cosmonautes déjà sur place. On les voit se prendre dans les bras, oui. Sauter dans tous les sens avec la pesanteur. On voit un pied au plafond, une tête à l'envers. Voilà, c'est une sorte de troisième mi-temps des étoiles. On se sert, prêt à faire une photo. On décompte 11 pensionnaires de l'espace, 6 Américains, 2 Russes, 2 Japonais, 1 Français présent dans l'ISS. Et ce Français, eh bien c'est Thomas Pesquet. Oui. En arrivant, le spationaute déclare « Je vous avoue que je n'ai jamais vu autant d'astronautes à bord et je n'ai jamais vu autant d'engins spatiaux à bord. » Alors, dans un tweet, la NASA est aussi enthousiaste. L'agence spatiale américaine commente l'arrivée dans l'ISS avec une vidéo et ce message. Leur arrivée signifie qu'il y a maintenant 11 humains à bord de notre laboratoire en orbite, un nombre jamais vu depuis l'ère de la navette spatiale. La NASA a la mémoire courte puisque ce nombre d'humains présents dans l'ISS a déjà été dépassé 3 fois.
Ben oui, avec un record en 2009.
Et oui, le 17 juillet 2009, 13 personnes cohabitaient dans la station spatiale. À l'époque, la NASA s'occupait seule des acheminements des astronautes vers l'ISS. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont acheminés soit par le vaisseau russe Soyouz ou comme Thomas Pesquet, via SpaceX et la capsule Dragon. À l'époque, les navettes de la NASA pouvaient transporter jusqu'à 7 astronautes. Thomas Pesquet a lui voyagé avec 3 autres personnes. Alors quand on voit les photos de 2009 avec ces 13 astronautes dans un réduit spatial, on a l'impression de voir 13 étudiants fêter la fin des examens dans la chambre de bonne de l'un d'entre eux. La station spatiale est prévue pour fonctionner avec 7 personnes. Trop nombreux, certaines pièces d'ailleurs deviennent défaillante. Ainsi explique le New York Times. En 2009, les toilettes de la station spatiale ne fonctionnaient plus. Il a fallu 24 heures pour un retour à la normale.
Pour autant, la cohabitation devrait être de courte durée.
Et oui, la situation ne devrait durer que quelques jours. Oui. L'équipe de Crew One, ceux qui ont accueilli Thomas Pesquet, doit très prochainement rentrer de sa propre mission. Ces astronautes sont sur l'ISS depuis 160 jours et ils devraient redescendre sur Terre le 29 avril. Et finalement, c'est presque rassurant de se rendre compte que malgré l'exploit scientifique, sur Terre comme dans l'espace, la colocation peut devenir un tantinet pesant.
En fait, on se croise dans
on est toujours, mais oui.
Voilà, c'est sûr. Exactement ça. On va retrouver Jean-Michel, Michel Simès. Pourquoi je vais vous mettre un Jean à vous ?
Mettez-moi un Jean, c'est
Michel,
pas un problème.
C'est très bien.
Oh, oui, ça me suffit.
Dans quelques instants, si vous le voulez bien.
Oui, absolument.
Allez, à tout de suite, 8h21.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
8h21. Ce matin, cher Michel, vous vous intéressez à la réponse immunitaire qui suit une infection par le coronavirus et il se pourrait qu'elle souligne une inégalité entre les femmes et les hommes.
Oui, une nouvelle inégalité, sauf qu'en l'occurrence, c'est à l'avantage des femmes. L'immunité anti-Covid durerait plus longtemps chez elles que chez les hommes. Le taux d'anticorps qu'elles développent après avoir fait connaissance avec le virus serait plus stable que chez vous ou chez moi. Alors, je m'empresse de préciser qu'il s'agit là d'une première conclusion tirée des travaux menés par une équipe strasbourgeoise. On est donc dans l'est de la France, l'une des régions les plus sévèrement touchées par l'épidémie, sur plus de 300 personnes. Et vous trouverez l'intégralité de l'étude sur le site de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
Alors justement, nos chercheurs, est-ce qu'ils avancent une explication ?
Alors il y en a plusieurs, mais ce sont plus des pistes de réflexion que des explications définitives. Première piste, la génétique. Comme vous le savez, nous avons 23 paires de chromosomes. La 23e est un peu particulière, c'est celle qui détermine notre sexe. Chez l'homme, c'est XY, chez la femme, c'est XX. La femme a donc le chromosome X en double exemplaire. Or, il se passe qu'une grande partie des gènes de l'immunité se situe sur ce chromosome X. Voilà qui pourrait expliquer une meilleure réponse immunitaire de la part des femmes. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Il y a une contrepartie à cette meilleure réactivité immunitaire des femmes. Elles sont 8 fois plus touchées que les hommes par les maladies auto-immunes du style sclérose en plaques, lupus ou polyarthrite rhumatoïde. La maladie auto-immune vient en effet d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui le conduit à s'attaquer à l'organisme qu'il est censé défendre. Par principe, plus ce système est armé, et c'est le cas avec ce chromosome X en double exemplaire, plus il pourrait faire de dégâts s'il se retourne contre lui-même. Je referme la parenthèse.
Fort bien. Quelles sont les autres pistes ?
Il y a la piste épigénétique. Là, c'est l'environnement des femmes qui serait à souligner. Et puis aussi la piste hormonale. Alors tout ça mériterait d'être creusé, affiné. Et l'équipe strasbourgeoise n'en a pas fini avec cette étude qui, si elle nous renseigne sur une réponse immunitaire spécifique aux femmes, ouvre d'autres perspectives.
Ah bon, lesquelles ?
Eh bien, des perspectives liées à la vaccination. Parce que si demain, ces disparités en matière de réponse immunitaire se précisent, on peut imaginer qu'il en soit de même pour la réponse vaccinale. Ce qui pourrait déboucher sur des schémas de vaccination différents pour les femmes et pour les hommes. Pour l'instant, femmes ou hommes, on vous propose le même type de vaccin, en tout cas pour une marque donnée. Et je vous conseille évidemment de vous faire piquer pour vous et pour la collectivité.
Merci beaucoup, cher Michel. À demain matin.
À demain.
Dans quelques instants, nous vous proposons une immersion exclusive auprès de la brigade spécialisée de Corbeil-Essonne. Notre journaliste Alice Moreno a pu embarquer pendant 48 heures avec les fonctionnaires de police dans leur mission du quotidien. Et vous allez entendre que les rapports entre la police et la population sont parfois surprenants, en particulier avec la jeunesse. A tout de suite sur RTL, il est 8h24.
RTL Matin, Yves Calvi.
RTL vous propose d'embarquer ce matin à bord des fourgons d'une brigade spécialisée de terrain, une BST. Des policiers qui passent tout leur temps dans des quartiers dits sensibles. Ils luttent contre le trafic de stupéfiants, les rixes entre bandes. Un terrain complexe, régulièrement théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et de jeunes habitants. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Vous avez passé 2 jours en immersion avec la brigade de Corbeil-Essonne, des vacations qui s'étendent jusque tard dans la soirée, et vous avez pu observer les rapports ambivalents entre cette police et la population du quartier des Tarterets, un des premiers quartiers de reconquête républicaine.
Les collègues, ils sont au niveau des Tarterets, on va y aller.
Deux équipes, deux fourgons se suivent en permanence dans le quartier des Tarterets. Un véhicule toujours prêt à venir en renfort de l'autre.
Pour éviter d'être pris à partie, quoi.
À travers les vitres en plexiglas des fourgons, les policiers scrutent les jeunes qui se trouvent là, au pied des tours de 15 étages.
On arrive rapidement à les identifier. À force de les contrôler, ça rentre.
C'est lassant. On les voit plus que certains membres de notre famille. Hein. Parce qu'il y en a certains, on les contrôle tous les jours, les dealers. On les contrôle tous les jours. Donc.
Les voitures sont siglées, les policiers en uniforme, équipés de gilets tactiques, de grenades lacrymogènes, de matraques. La BST est très visible et c'est même un de ses objectifs.
Je crois que l'occupation de la voie publique, être présent tout le temps sur le secteur, déjà ça dissuade beaucoup les jeunes et ça leur montre justement qu'il n'y a pas de zone où nous on ne va pas.
La cité des Tarterets compte 5 points de deal. Le fourgon marque l'arrêt devant l'un d'eux. Le chef d'équipe, Fabrice, ordonne un contrôle.
Messieurs, bonjour. Vous allez vous rassembler là sur un côté là.
Au moment de la palpation, le tutoiement vient naturellement.
Tiens, mets-toi là-bas au fond. T'as une pièce d'identité ou pas ?
Non.
Tiens la capuche. Tente-toi.
C'est bon.
Tente-toi. T'as un truc dangereux sur toi ou pas ?
Non,
je vois. Ouvre les vestes.
Bonjour.
Pas de saisie cette fois-ci.
Malheureusement, tout est caché.
À peine les policiers ont-ils repris la direction du fourgon que des projectiles pleuvent.
Vous voyez ? C'est un ballon d'eau.
Un ballon d'eau, puis des œufs s'écrasent sur la chaussée.
Ouais, on va remonter. Hein ? On va remonter.
Mais les œufs, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est long.
On va partir. Te fais pas. On va se mettre un peu plus.
Parfois, ce sont des pierres ou des cocktails Molotov qui sont jetés dans leur direction. Nombre de ces policiers ont été blessés en service. Le major Cerveau déplore un rapport très compliqué avec les jeunes du quartier.
Engager une conversation avec des gens qui nous voient comme des ennemis, c'est très difficile. Le dialogue est rompu depuis longtemps, en fait. Pour revenir à un dialogue avec eux, ça va prendre du temps. C'est pas impossible. Ça va prendre du temps. À titre perso, je n'ai pas beaucoup d'espoir.
Pour le major, la qualité essentielle pour travailler en BST à Corbeil, c'est la persévérance.
Un vrai dialogue semble bien difficile, hein, mais on l'a entendu, ces policiers retrouvent toujours les mêmes garçons en face d'eux. Étrangement, ça crée quand même une forme de proximité.
Oui, c'est tout le paradoxe. Un policier qui interpelle un jeune homme pour port d'armes et lui demande de ses nouvelles.
On a interpellé un individu, QRR Tarteret.
Ouais, quoi de neuf sur le quartier ? Tu bosses un peu ou pas ?
Là, je vais travailler normalement, mais...
Les frères, ça va ?
Ouais, ils vont bien.
T'as pas pris un autre couteau, là ? C'est sûr.
Le chef d'équipe, Bertrand, est un des plus anciens de la BST. Il travaille à Corbeil depuis 10 ans.
Moi, je suis arrivé fin 2011 à Corbeil. Je vous assure, les 6 premiers mois que j'ai fait ici,
Mais je me suis dit dans un autre monde. On sortait tout le temps, des véhicules qui brûlaient tous les jours, pris à partie tous les jours. Donc j'ai appris, parce que pour moi c'est un nouveau métier. Hein. Je me suis fait prendre à partie, moi, au Tarteret, dans un véhicule léger. Ils sont arrivés, ils nous ont caillassé. J'ai eu la peur de ma vie.
Selon lui, les prises à partie sont moins régulières aujourd'hui. Et puis il a appris à placer le curseur de l'autorité.
C'est un autre monde, hein. La banlieue, c'est une autre vision des choses. Il faut savoir jauger, il faut mettre le rapport de force au bon moment. Il ne faut pas arriver dans la cité et puis contrôler, grenader à tout va, gazer à tout va. Non, c'est pas ça.
Malgré ces précautions, rares sont les contrôles sans moment de tension, comme ici, dans le quartier rival des Tarterets, à Mont-Conseil.
Arrête de faire ton cinéma, là.
Quel cinéma ?
Les adolescents dénoncent ici des contrôles incessants.
Il y a des personnes ici dans la journée qui peuvent se faire contrôler au moins deux ou trois fois facile.
Dans la journée ?
Ouais, exactement.
Ce qui nous provoque.
Vous avez cette impression-là ?
Non, ils nous le disent. Concrètement, ils nous disent affrontez-nous.
Ils stressent tout le temps. Ils savent qu'ils n'allaient rien saisir du tout. Ils sont juste là pour nous stresser. En fait, ils veulent nous pousser à bout.
Du coup, ils mangent. Par exemple, la BST, ils doivent intervenir spécialement sur mon conseil, les Tarterets, etc. C'est des quartiers. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps là aussi. C'est leur mission.
Ça, on le comprend. Ils savent qu'ils peuvent aller faire une saisie quelque part d'autre. Ils vont venir ici juste pour nous stresser. Et ils vont nous provoquer. Ils vont nous dire que vas-y, caillassez-nous. Nous, on va tirer au flashball, on va embarquer personne, juste on va faire un petit jeu. Mais le jour où ça va vraiment arriver, moi, je sais qu'ils vont pas assumer.
Là, madame, je pense que, entre guillemets, il n'y aura pas de retour en arrière. Non, mais chacun doit mettre de l'eau dans son vin, entre guillemets. Et puis voilà, et je pense que ça ira mieux pour tout le monde.
Ils se connaissent, se côtoient, se jaugent, un mot plus haut que l'autre, un énième contrôle. Et le fragile équilibre des relations entre les policiers et les jeunes de Corbeil peut voler en éclats.
Reportage d'Alice Moreno à la BST de Corbeil-Essonne. Il est 8h32, dans un instant nous allons retrouver Louis Bonin qui est d'ores et déjà avec moi.
Oui.
Pour notre météo à 7 jours.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24. Rendez-vous sur rtl.fr. RTL Matin.
Notre météo à 7 jours, tout de suite avec vous Louis Potin.
Oui, le soleil qui s'impose au nord, les nuages au sud, hein, une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt le soleil dans ces régions du nord. Alors quand je dis la moitié nord, c'est au nord d'une ligne, La Rochelle, Besançon à peu près. Ciel très lumineux, pas de précipitation, alors qu'au sud, on aura des averses. Demain, c'est exactement la même chose. Toujours le soleil dans la moitié nord, un peu frais, c'est vrai, avec le vent de nord-est qui empêche justement les perturbations de remonter jusque-là. Et perturbations qui traîneront encore dans la moitié sud, avec toujours de l'instabilité. Des averses, de rares éclaircies, parfois de l'orage l'après-midi entre les Pyrénées et la Méditerranée. Les températures bougeront peu, c'est-à-dire qu'elles resteront de saison l'après-midi, toujours un petit peu fraîches le matin, notamment dans la moitié nord, avec encore quelques risques de gelée, notamment près des frontières du nord-est. Pour la journée de mercredi, même chose, beaucoup d'instabilité dans le sud, du soleil dans la moitié nord, mais en fin de journée, cette instabilité pourrait gagner la Bourgogne, la Lorraine ou encore l'Alsace, avec là aussi quelques averses, donc plutôt en fin de journée. Les températures auront tendance à baisser un petit peu. C'est la même chose pour la journée de jeudi, où ce temps instable va s'installer sur toutes les France. C'est un peu galère pour nous en matière de prévision, parce que là, ça devient compliqué de dire à quelle heure, quand aura lieu l'averse ou encore l'orage, mais ça concernera la plupart des régions. Et puis pour la fin de semaine, eh bien cette instabilité va se généraliser, le temps va devenir plus dépressionnaire, donc ça veut dire beaucoup de nuages, des averses assez fréquentes, notamment pour la journée de samedi. Dimanche, peut-être une petite amélioration, mais vous voyez que pour la fin de semaine, quand même, le risque d'averse va concerner la plupart des régions, ce qui est une bonne nouvelle pour la nature qui en a besoin. Je parle de la sécheresse de surface, hein, parce que non phréatique, il n'y a aucun problème, puisque vous alliez me poser la question.
Voilà, vous avez lu en moi.
Exactement.
Merci beaucoup Louis Bodin. Elle conduit son camion poids lourd pieds nus. On vous présente Gaëlle dans un instant. Oui, vous avez compris, c'est une femme qui conduit son camion.
RTL, vous êtes comme ça.
Nous allons prendre la route ce matin, là où vous êtes nombreux à nous écouter chaque jour et faire la rencontre de Gaëlle Comte. Cette jeune femme de tout juste 21 ans est une routière, comme elle aime se définir. Autrement dit, elle est chauffeur de poids lourd. Bonjour Guillaume Frixon.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Vous avez rencontré Gaëlle juste avant qu'elle ne vous embarque avec elle sur la route à Coude dans le Puy-de-Dôme.
Eh bien, lorsque je retrouve Gaëlle sur le parking des transports Verdier, elle est en train de manœuvrer pour attacher son camion à une remorque remplie à bloc.
Bon, dites-moi Gaël, on n'a pas affaire à un petit camion là, c'est pas le petit gabarit.
Ah non, là c'est vraiment le grand. Ça fait 16,50 m attelé, ça fait 44 tonnes.
À 21 ans, avec ses bijoux, son jean et son pull à capuche, Gaël est bien dans ses baskets. Une énergie débordante passée sur les routes du nord de la France, essentiellement du lundi au vendredi.
Oh, d'ordinaire je vais en Bretagne, Paris, Amiens.
et stationné juste à côté de son camion. Alain, un chauffeur routier en short Marcel et claquette de 53 ans, il est venu du Mans et il croise la route pour la première fois de Gaël.
Ben c'est bien, il faut que tout le monde travaille, puis c'est bien, ça fait de la jeunesse dans le transport, c'est bien, et puis que les femmes s'y mettent aussi, c'est bien, c'est un métier de... ça change un peu. Parce que tu vois des vieux comme moi, ça...
Allô ?
Oui.
Bon, c'est bon, ils sont dispo, tu peux y aller, ils vont te les charger.
Ok.
Voilà. Donc je t'envoie la destination avec le nom.
Son bon de commande est réceptionné, Gaël a 3 entreprises à livrer ce jour-là, et dans sa cabine, tout est à portée de main.
Du coup, au-dessus de moi, j'ai des placards pour ranger mes affaires. Et derrière les sièges, il y a une couchette qui fait la taille d'un lit, une place, on va dire.
Des petites photos de famille.
Voilà, oui, bah, pour personnaliser un peu, quoi.
C'est un profil atypique dans une profession encore très masculine, mais la jeune femme semble tout à fait à l'aise avec son métier et son camion.
Eh bien, chaque semaine, elle conduit près de 3000 km. Autonome et débrouillarde, Gaëlle ne craint absolument pas de passer la semaine seule au volant de son camion.
Puis de toute manière, on voit les clients, donc c'est pas comme si on parlait à personne de toute une journée. Les soirs, quand on va au resto, on rencontre des gens. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je suis une femme, ils vont tous me regarder. Après, ça s'est bien passé, donc j'y suis retournée. Maintenant, j'ai un peu l'habitude. Mais après, oui, pour dormir les premiers jours, je me disais, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que, voilà. Mais après, j'ai vite oublié. Et une fois que j'étais dans le lit, je me suis dit, c'est bon, j'ai fermé les portes à clé et c'est bon, il peut rien m'arriver, quoi.
Alors pour sa première livraison de la journée, elle va aider à décharger près de 20 palettes de marchandises sous les yeux quelque peu surpris de ce jeune magasinier.
Bah oui, je m'y attendais pas. J'ai un chauffeur féminin, on va dire, sans être... c'est la première fois que j'en croise, donc c'est vrai que ça fait bizarre, mais... Tant que le boulot est bien fait, là.
Alors elle peut rouler jusqu'à 9h en une journée et Gaël a déjà ses petites habitudes.
Et là, je vois au volant, vous êtes pieds nus.
Voilà. Ouais, bah oui, parce que vu que j'ai mis un tapis, j'ai pas envie de salir le tapis, donc je conduis en chaussettes, oui. C'est mon camion, donc des fois on se parle. Enfin, je lui parle, il me répond pas. Mais quand il fait un truc qui me plaît pas, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Quand il passe des vitesses sans mon avis, je me sens moins seule, on va dire. C'est comme quand on a un animal de compagnie, on lui parle, là c'est pareil.
Et quant à l'avenir et une possible vie de famille, Gaëlle est très claire.
Je me vois pas faire autre chose en fait, tout de suite quoi. Je suis dans mon camion, je suis là, je suis bien. Je conduis, il y a le soleil, voilà.
Heureuse.
Heureuse, ouais.
Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, Gaëlle a repris la route heureuse et épanouie dès 5h ce matin.
Le portrait de Gaëlle, la routière qui conduit sans chaussures. Merci beaucoup Guillaume.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Guillaume Frixon. Ce matin, Isabelle Choquet, on parle de la grossophobie, pas sur les réseaux sociaux, pas dans la rue, mais bien chez le médecin.
Oui, c'est Marie-Claire qui s'est penchée sur ce phénomène dont on parle assez peu, mais qui peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Ça tient souvent à pas grand-chose, hein. Quelques mots, la remarque de trop. Il y a une personne mince à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à vivre. Ça, c'est ce que Pelfine a entendu un jour chez son psychologue. Puis, c'est son dentiste qui lui a conseillé une chirurgie bariatrique. Marine, elle, a fini par changer de généraliste parce que, quel que soit l'objet de la consultation, il lui répétait qu'il fallait maigrir, même pour une angine. Ah, mais alors, si je mincis, dit-elle, mes amygdales vont mincir aussi. Un ORL lui a confirmé ensuite qu'une angine, ça n'a rien à voir avec la corpulence. Mais des études le prouvent, les médecins recommandent systématiquement à leurs patients obèses de perdre du poids, point final, alors qu'aux autres, ils prescrivent des examens, des tests sanguins, de la kiné. C'est tout le problème, le poids, on ne voit plus que ça, même quand on est médecin. Prenez Pascal, 13 kilos de trop, sans même regarder ses résultats d'analyse, sa nutritionniste lui lance « Bon, vous avez le choix entre mourir d'un infarctus ou faire un AVC ». Ce regard-là, il n'est ni professionnel ni même rationnel. Parce que, Pelfine, son père est médecin. Chez eux, l'alimentation a toujours été saine et équilibrée. Il m'a vu grandir et me nourrir de la même façon que lui, dit-elle. Et pourtant, il a gardé longtemps l'idée que si je grossissais, c'était parce que je mangeais plus. La militante dénonce un cliché éculé. Si on est gros, c'est forcément qu'on mange trop ou mal. Un jour, son docteur lui a lancé « Il n'y avait pas de gros dans les camps de concentration ». La conséquence de tout cela, c'est que beaucoup de patients en surpoids contournent l'obstacle. Ils ne consultent plus. Belfine l'avoue, elle a été en rupture médicale pendant 7 années. Évidemment, c'est pire que tout. Sans suivi médical, les patients restent en mauvaise santé. Certaines maladies sont détectées trop tard. 3 études différentes ont montré que les femmes en surpoids sont plus susceptibles de mourir d'un cancer du sein ou du col de l'utérus que les autres femmes. Et c'est en partie parce qu'elles hésitent à consulter un médecin. Bref, entre les médecins qui n'écoutent pas toujours et les patients qui ne consultent plus, c'est la santé qui trinque. Voilà pourquoi, avec son association Fat Friendly, Belfine travaille sur un projet de maison médicale bienveillante. Un endroit où l'on sait que si on vient pour une otite, dit-elle, on sera soigné pour une otite et qu'on ne repartira pas avec un bon pour une opération bariatrique. Oui. L'aménagement du centre médical sera aussi pensé différemment. Pas d'accoudoir sur les chaises dans les salles d'attente, par exemple, et des tables de soins adaptées. D'habitude, dit Belfine, il y a souvent une petite marche étroite pour monter sur la table et parfois, on n'y arrive même pas. Et même quand le matériel est adapté, ce n'est pas gagné. Un généraliste témoigne. Je reçois une patiente en surpoids et comme je n'arrive pas à prendre sa tension avec un brassard standard, j'attrape un brassard grande taille. Et là, ma patiente se met à pleurer. Et je m'aperçois qu'il y a écrit « obèse » sur le brassard, en blanc, en très visible, on ne peut pas le louper. Évidemment, c'est un terme médical, mais ma patiente, elle n'a vraiment pas besoin qu'un brassard lui exprime encore ce que toute la société lui matraque déjà depuis l'enfance. Le jour même, ce médecin a interpellé la marque de brassard sur les réseaux sociaux. Ils seront désormais estampillés XXL, quand je vous disais que ça tient souvent à pas grand-chose. La grossophobie médicale, article très intéressant à retrouver sur le site de Marie-Claire.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. Nous allons retrouver Laurent Gérard et toute son équipe dans un instant sur RTL. Passez une très bonne journée. Nous sommes lundi. La semaine démarre très bien.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi. Calvi sur RTL.
Mon cœur bondit. Il est 8h45. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. Selon de nombreux sondages, la popularité du Premier ministre est en berne. Le locataire de Matignon ne ménage pourtant pas ses efforts pour essayer de gérer la crise sanitaire. Bonjour Jean Castex.
C'est à moi.
Oui.
Je peux y aller.
Oui.
Où est mon micro?
Devant.
Ah, c'est celui-là, mon micro. 1, 2, 1, 2, 3, nous irons au bois.
Très bien.
4, 5, 6, cueillir des cerises.
Ah oui, c'est bien vous.
Ah oui, c'est bien celui-là.
Oui.
Bonjour Mademoiselle Jade, et bonjour monsieur. Allez-y, je vous écoute.
Eh bien, tout d'abord, nous voudrions savoir comment vous affrontez la défiance vis-à-vis de votre politique que l'on peut voir dans les enquêtes d'opinion.
Ne vous fiez pas aux enquêtes de l'IFLOP ou de la SAFRES. Je suis très populaire, très populaire. On m'écrit de partout, pas plus tard que la semaine dernière. On m'a même envoyé des cadeaux olé olé à Matignon. À Matignon.
Ah oui, alors je vois très bien ce que vous voulez dire. Ce sont des gérantes de boutiques de lingerie considérées comme non essentielles qui vous ont adressé des sous-vêtements en vous demandant, je cite, « N'est-ce pas la première chose que vous enfilez le matin ?»
Eh bien, ce matin, en responsabilité, je réponds à ces madames que le matin, je n'enfile ni string, ni tanga, ni panty, ni culotte fendue. Le matin, quand je le retrouve, j'enfile mon caleçon long en thermolactyle s'il fait frais, ou sinon un kangourou Manu France en cotonnade s'il fait doux.
Voilà une réponse claire, monsieur le Premier ministre. Passons à cette idée que vous auriez lancée de vacciner la chanteuse Sheila avec AstraZeneca pour populariser ce vaccin. Vous nous confirmez l'information ?
En responsabilité, je vous le dis. Il y a plus de risques de faire une thrombose en restant assis devant sa TSF à écouter Zapimax qu'en prenant une piqûre d'Opel AstraZeneca. C'est pourquoi j'ai pensé à Sheila. À Sheila, pour montrer l'exemple.
Oui, mais pourquoi Sheila, monsieur Castex?
Parce que c'est la petite fiancée des Français. Une star qui vend des millions de 45 tours. J'ai découpé son poster dans Podium.
Oui. Ah, voilà.
Le super mag des super faves. Et je me suis fait une cassette pour l'écouter en voiture. L'école est finie. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais.
Oui.
Hein, vous vous souvenez. Oui. Comme les rois mages. Patrick, mon chéri, ne fait pas tanguer le bateau. Oui. Les gondoles à Venise, sans oublier La chanson en short de cuir, quel tempérament de feu, hein, est Spacer.
Oui, et... Spacer, oui. Et d'accord, alors on a compris que vous étiez fan, Jean Castex. Pas la peine de nous faire toute la discographie de Sheila non plus. Nous avons juste le temps de prendre la question d'un fidèle auditeur. On vous écoute au 3210.
Allô, Jean Castex, c'est Zidev à l'appareil. Le chanteur qui aime bien les grosses seringues. Dis-moi, Jean, j'appelle au sujet de la vaccination. Formidable la vaccination. Est-ce que c'est vrai que si on se fait piquer, ça relance la fin des carrières? Parce que moi aussi, j'ai fait des chansons magnifiques. Et je veux bien me faire piquer comme c'est là. Si on offre mon disque exceptionnel aux volontaires. En responsabilité, monsieur Dave, il nous faut une diva. Une diva comme Sheila, Nicoletta ou Sylvie Vartan. J'ai compris, Jean. Tu sais, c'est une diva blonde qui a fait les années guillées pour se faire piquer. Là, je suis volontaire avec Astra Zigounetta, avec Moderna Viser aussi. Moderna. Vaccina. Merci, Jean Castex. Je te souhaite une bonne fin de carrière.
Insistant. Hein.
Très. Oui. Jack Lang a ouvert les archives de ses courriers à l'époque où il était ministre de la Culture de François Mitterrand. Le journaliste Frédéric Martel en a fait un livre qui vient de sortir. Bonjour Jack Lang.
Salut John, ça farte. Vous avez oublié de citer le titre de mon livre. Jack Lang, une révolution culturelle. Je suis le Danton de la culture, le Lénine des vernissages, le Che Guevara des petits fours et du champagne. C'est chier, non?
Oui, alors dans ce livre, on apprend que vous avez écrit des centaines de notes à François Mitterrand dans lesquelles vous maniez l'art du compliment pour obtenir ce que vous voulez.
Moi? Flagorneur, jamais. Tenez, je vous lis un extrait d'un courrier adressé à François Mitterrand par ma main. Oui. Monsieur le Président, mon cher François, phare de l'humanité, lampadaire du monde, ma lumière, oh vous mon soleil, mon tout, mon roi, ma beauté.
C'est vrai que ce n'est pas du tout flagorneur.
Hein, je vous l'avais dit. Je poursuis. Je sollicite ta grandeur afin qu'elle m'apporte son aide bienveillante pour obtenir une subvention de 10 millions de nouveaux francs que me refuse l'intendant aux finances, cette pince de Michel Charras, qui, soit dit en passant, se moque régulièrement de vous dans votre dos, ô divinité suprême. Ainsi, l'autre jour, pour la photo officielle du gouvernement, je l'ai vu, il vous a fait des oreilles de lapin. C'est indigne.
Oui, mais alors c'était pourquoi cette subvention ?
Encouragé par mon ami Pierre Berger, quel bel homme, à l'occasion de la Gay Pride, la marche des fiertés homosexuelles, des trans et des coiffeurs, je souhaitais demander à un artiste plasticien exigeant, de gauche d'ailleurs, bien sûr, d'ajouter des moustaches et une casquette de cuir à la Joconde, afin de faire entrer l'œuvre vieillotte de Léonard de Vinci dans la modernité. C'était chier, non?
Oui, si j'en crois les archives contenues dans votre livre, les réponses à vos très longues notes de François Mitterrand étaient très courtes.
Oui, je cite ce génie littéraire qui avait la formule courte.
Oui.
À ma demande, voici ce que François Mitterrand m'écrit. Je vous lis sa réponse. Une moustache, le village people à la Joconde, et pourquoi pas une pyramide au Louvre pendant qu'on y est, hein? Et voilà comment est née l'œuvre pharaonique du Ramsès de Jarnac, que vous pouvez encore admirer si vous réussissez à enjamber les poubelles, les cagettes et les colonies de rats qui sèment un peu partout la mer de Paris, Anne Hidalgo, la dingo des bobos.
Fort des bonnes audiences de son émission L'heure des pros sur CNews, Pascal Praud continue de peaufiner son nouveau format d'émission qu'il a intitulé L'heure des crocs. En voici un nouvel extrait.
Bonjour à tous et bienvenue dans L'heure des crocs,
bonjour,
l'émission.
Pascal.
Bonjour, qui est l'émission qui a une dent contre la bien-pensance et plante ses crocs dans les fesses molles du politiquement correct. Je reçois aujourd'hui quatre fins observateurs de leur époque. Alain Finkielkraut, Laurent Geoffrin, Jacqueline Delarey de Mediapart et Jean-Marie Bigard. Donc, s'il vous plaît, c'est Laurent Geoffrin, ne commencez pas. Si je vous ai mis votre baillon à boules, C'est pour ne pas vous entendre. Ne m'obligez pas à vous coller la bouche avec de la pâte à fixe. On va parler aujourd'hui du variant indien. Tiens, on en parle beaucoup. Jean-Marie Bigard, vous en pensez quoi?
Ben, je pense que les Indiens, si leur variant il est comme leur bouffe, ben, il va devoir nous faire chier, le variant, là.
Mais enfin, le variant indien n'a rien à voir avec le peuple indien. Jean-Marie Bigard est raciste et je n'hésiterai pas à l'écrire dès demain dans les pages d'élation de Mediapart.
Pète un coup, la Jacqueline, oh, c'est de l'humour.
Madame Delarey, aussi douteux soit-il, les propos de Monsieur Bigard révèlent en effet assurément de la galéjade inoffensive. Je me joins donc à lui pour vous inviter à vous détendre en émettant une flatulence libératrice. Recentrons-nous sur le débat, s'il vous plaît. Le variant indien est-il une occasion pour la recherche française, enfin, de s'illustrer dans la lutte contre la Covid, puisque les Indiens aiment le curry? Faut-il mettre à contribution les chercheurs de l'Institut Curie?
Non, moi, à mon avis, la seule solution, là, c'est de créer en laboratoire un variant cow-boy. Y a que ça pour arrêter un variant indien, un variant cow-boy.
Et voilà. Monsieur Bigard confond maintenant les Indiens d'Asie et les Indiens d'Amérique. Voilà qui fera un excellent entrefilet pour les pages lynchage de Mediapart.
Gna 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 gna, pauvre conne. Merci Laurent Geoffrin. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve ce midi dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL. Nous parlerons des Oscars la nuit dernière. Vous avez suivi, c'est Florian Zeller qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Pensez-vous que, pour dignement représenter l'image de la France sur scène, à l'instar de Corinne Maziero, au lieu d'être en smoking, Florian Zeller aurait dû arriver à poil, ensanglanté, avec un slip douteux sur la tête? Je pose la question au 3210.
Ce sera fait.
Merci infiniment. Bah oui, on vous retrouve sur le site rtl.fr demain matin et surtout dans quelques minutes dans Laissez-vous tenter, puisque je rappelle, cher Laurent, que vous allez partager la scène avec Eddie Mitchell le temps d'une soirée.
Je te dis, monsieur.
À crédit et en stéréo. Ce sera une diffusion en direct et en streaming le 27 mai prochain. Et il se trouve, je suis heureux de l'annoncer, que la billetterie ouvre aujourd'hui. Tous les détails dans Laissez-vous tenter tout à l'heure avec vous, cher Laurent. À tout à l'heure.
Merci, à tout de suite.
Merci à toute l'équipe.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Pour vous demander des conseils, nos auditeurs continuent de vous poser toutes leurs questions sur rtl.fr/participer. Et Aurélie, qui vit en région parisienne, aimerait une recette de cornes de gazelle, mais moins lourde, nous dit-elle, moins sucrée, moins compacte que les recettes traditionnelles. Pas forcément light, mais juste un peu plus légère. Allez, oui. Débrouillez-vous avec tout ça.
Alors j'avais envie de dire, bon, les cornes de gazelle, c'est pas très light. Hein, mais on va essayer de diminuer un petit peu le sucre et un petit peu le beurre. Mais bon, pour faire la pâte, donc j'ai besoin de 250 g de farine, dans lequel je mets une cuillère à soupe de miel, un demi-œuf, donc je bats un œuf que je bats, j'en récupère que la moitié, 3 cuillères à soupe d'huile, 20 g de beurre pommade, une pincée de sel, et un tout petit peu, comme ça, avec une cuillère à soupe d'eau juste tiède.
Vous
et là,
précisez
je pétris.
L'huile que vous utilisez, excusez-moi, quelle huile?
Alors je prends toujours de l'huile de pépin de raisin.
Voilà.
Parce que c'est celle qui est la moins...
La plus neutre,
et j'ai envie de dire la meilleure pour l'organisme.
Parfait.
Donc en fait, je pétris bien avec la main, ça nous donne vite une pâte. Mm-hmm. Je la laisse reposer une bonne demi-heure, à température. Et pendant ce temps, je prépare la farce. Alors la farce, c'est 125 g de pâte d'amande que l'on achète. Et alors accrochez-vous, je vais y mettre une bonne cuillère à soupe de beurre. Mm-hmm. Que j'ai sorti du frigo un petit peu avant, que j'ai rendu pommade.
Voilà.
Et là, je mélange la pâte d'amande que je détends grâce au beurre. Et ensuite, on ajoute de la fleur d'oranger ou de l'eau de rose. C'est un peu comme on a envie pour ce goût de corne de gazelle.
Très bonne idée.
Ensuite, je pétris bien avec mes mains, je malaxe. Je reprends ma pâte que j'étale. Alors, il faut que ce soit assez fin parce qu'on va la replier sur elle-même. Donc je l'étale assez fine, je prends dans ma main un petit peu de ce mélange de pâte d'amande parfumée, je dépose au milieu de mon rectangle, je plie l'un sur l'autre, et ensuite avec une petite roulette, je fais le tour, et là je pince ensuite avec mes doigts pour former cette corne de gazelle, en fait. Je la mets au four à 180 degrés pendant 10 minutes, et là elle est bien croustillante et bien fondante à l'intérieur. Alors, on peut y rajouter encore un petit peu de miel dessus, on peut y rajouter du sésame, on peut y rajouter des petites amandes, Et là, on a en plus une matière un peu plus croustillante que la normale. Voilà.
On arrête là parce que je crois que j'ai déjà pris un kilo. Oui, mais ça fait envie.
C'est assez paradoxal parce que, en effet, une recette de corne de gazelle, c'est forcément assez gras. C'est de la pâtisserie très riche et à la fois très gourmande du Moyen-Orient. Et moi, j'adore ça.
Moi aussi, j'adore ça. Et on retrouve toute la recette sur le site RTL.fr. Merci beaucoup, Cyril. À demain matin.
Merci.
À demain. 9h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point d'actualité avec Jérôme Florin.
C'est la rentrée pour 6,5 millions d'élèves de primaire et de maternelle. Le protocole sanitaire est renforcé. Au premier cas de contamination, la classe sera désormais fermée. Bonne rentrée à tous et continuons à appliquer les gestes barrières. Tweet ce matin Emmanuel Macron. Après les États-Unis, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, la France annonce l'envoi de moyens en oxygène pour l'Inde, débordée par la pandémie. Les contaminations ont explosé de 58% en une semaine. Total renonce à son projet gazier au Mozambique après une attaque djihadiste début avril. Le groupe français évoque une situation de force majeure. À Rambouillet dans les Yvelines, un hommage sera rendu cet après-midi devant l'hôtel de ville à Stéphanie, cette policière de 49 ans poignardée à mort vendredi par un terroriste tunisien. En football, Lille se prend à rêver. Le LOSC a repris la tête du classement après avoir battu Lyon 3-2. Lille devant Paris et Monaco. Il reste 4 journées avant la fin du championnat.
Merci beaucoup Jérôme Flore.